Alien et les garçons, épisode 43. Bienvenue dans 3 mondes meilleurs.
Bienvenue à bord d'Alien et les garçons, épisode 43. Bonjour Florian.
Bonjour Thomas.
Bonjour Vic.
Bonjour Florian.
Très marrant. Excellent, excellent. Comment vous allez les amis? Ouais.
Bah ça va bien.
Et toi Vic, tu te sens bien?
Et ça va, ça me fait bizarre de ne pas entendre la musique du générique derrière, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose.
Il manque quelque chose en effet. Avant de révéler aux auditeurs le quelque chose qui manque, je voudrais poser une simple question à Florian. Est-ce que tu as du goût et de l'odorat, Florian?
Ouais, techniquement j'ai du goût et de l'odorat, moi je n'ai aucun problème.
Très bien.
C'est la société, Florian, qui a un problème avec moi en fait.
Ouais, c'est ça, c'est ce que disent tous les punks dans ton genre. Florian, qu'est-ce qui t'est arrivé?
Bah, il m'est arrivé que je suis cas contact Covid plus, voire plus plus, et du coup je dois rester confiné chez moi à nouveau pendant du coup une semaine et demie, voire deux semaines, le temps que je me refasse tester. Enfin bref, c'est compliqué quoi.
Et donc du coup l'enregistrement se fait à distance une fois de plus, donc on n'a pas de musique, on se voit pas, on se renifle pas, on se touche pas, on se cas contacte pas, mais c'est pas grave, on est quand même content. De toute façon, franchement, en 2020, on a fait que ça quasiment.
Mais j'ai calculé, hein, c'est un rapide calcul, hein, mais je crois qu'on est à 7 ou 8 confinements à nous trois, ce qui est pas si mal en soi. Hein. C'est un bon ratio. Hein.
Je peux me targuer d'en avoir fait la moitié, je pense.
Exactement.
Bravo. Bah, Aline et les garçons, ouais, spécialistes du Covid, du confinement, de tout ça, quoi, on s'y connaît. Quoi. Vic, ça va? Tu parles pas? Tu fais la gueule? On te voit pas?
Non, j'essayais de calculer dans ma tête ce que ça voulait dire qu'on en était à 7 ou 8 confinements. Parce que c'est un peu bizarre quand même, c'est quoi un confinement? C'est une échelle de temps, non, pour toi, Florian?
Florian il compte en confinement, tu vois, les enfants comptent en dodo, lui il compte en confinement, c'est comme ça.
Non mais c'est bizarre. Non, mais
on s'est fait, confiner plusieurs fois, tu sais, entre le confinement de l'État, le confinement de parce qu'on a été cas contact, ou parce qu'on a été en Chine, ou parce que, etc, etc, tu vois.
Ah oui, oui, oui.
En tout et pour tout, je crois, 8 fois, ouais.
On mène une vie vraiment pas facile, comme vous pouvez l'entendre, parce qu'on est soit malade, ou soit pas malade, mais on fréquente des gens malades, soit on est dans des départements dont on ne connaît même pas le nom. Et moi, j'ai pas du tout préparé de conducteur. Donc, on va jongler un petit peu. On va jongler un petit peu. Alors, vous savez, la vie n'est pas simple parce que. Je peux raconter un petit peu mes problèmes. Enfin, j'ai pas des problèmes en fait. Je suis en train de faire une acquisition immobilière. Et une acquisition immobilière, ça prend un temps fou.
C'est dur la vie.
Un problème de riche.
Cumulé avec le CDI et dans le tertiaire, ça prend un temps fou les deux ensemble. Et donc, du coup, là aujourd'hui, j'étais dehors, j'ai tout machin, vide à l'OCA. Arrivé 21h, on enregistre. Bah, j'ai rien préparé. Voilà, enfin j'ai une chronique, c'est bien déjà.
Mais c'est pas grave, au moins tu seras bientôt propriétaire terrien et tu pourras nous accueillir dans ton nouveau chez toi pour enregistrer.
Et on lui
podcast.
Trouvera un petit nom et on va faire des enregistrements là-bas.
Exactement.
D'ailleurs Thomas, oui. D'ailleurs Thomas, pour parler que tu as une chronique, tu n'as pas plutôt 3 chroniques?
Si. Oui, alors attendez, on va expliquer aux auditeurs. J'ai écrit ma chronique, moi j'écris toujours très en avance, comme chacun le sait. Et j'avais écrit ma chronique donc il y a peut-être, je sais pas, 3 semaines, ou je pense que je l'avais même écrite avant l'épisode d'avant. Donc voilà, c'est une chronique qui était assez sympatoche, mais. Elle cassait pas 3 pattes à un canard non plus, hein. Donc ouais, je me suis dit j'ai du temps, je vais en écrire une autre un peu mieux, et j'en avais écrit une autre qui était vraiment pas mal, qui était un peu drôle, où il y avait de l'intervention de chacun, Vic et Florian devaient jouer des personnages, on rigolait entre nous, c'était un petit peu délicat à enregistrer.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des chroniques un petit peu comme ça où on joue des
justement,
personnages.
C'est ce qu'on s'était dit, et moi, enfin c'est ce que je m'étais dit, je vous l'avais dit, du coup j'avais réécrit complètement quelque chose où tout le monde jouait un rôle, c'était un peu rigolo, c'était un petit peu un petit théâtre quoi, tu vois. Et entre-temps, Florian a trouvé la bonne idée de sortir avec une fille qui avait le Covid. Et voilà où on en est. Et du coup, moi, je me suis dit, bon, bah, on va pas pouvoir le faire à distance. Et donc, j'ai eu plus ou moins 3 jours pour écrire une chronique. Donc, voilà.
Ce qui est deux fois plus de temps que nécessaire pour écrire une chronique pour toi.
Oui, bah, en fait, je l'ai fait sur un trajet de train, un retour du trajet de train. Et j'ai peaufiné ça un soir. Et puis, voilà, quoi. Voilà.
Et c'est comme ça qu'on fait les meilleures chroniques de.
Exactement. Non, mais j'en suis plutôt content, elle est rigolote. On verra. Je pense qu'elle aurait été encore plus drôle. Je vais vous dire tout de suite de quoi ça parle. Comme ça, ça me fait la transition.
Bah, peut-être tu peux parler du thème avant.
Le thème. Est-ce que ça fait de ne pas avoir de conducteur? À tous les gens qui roulent
et surtout,
sans conducteur.
Non seulement tu n'as pas de conducteur, mais en plus de ça, je te demande toi de parler du thème parce que je n'ai pas envie de devoir le décrire.
Ouais, c'est compliqué. Alors, pas au dernier épisode, mais au précédent, c'était le dernier épisode de la saison 2, avant l'été. On vous avait demandé. On avait fait une sorte de saillie un petit peu, voilà, je ne sais pas ce qui nous avait pris, on voulait de la difficulté, on voulait des thèmes un peu fous, on en avait marre de juste un mot, etc. Et on a reçu donc quelques thèmes assez marrants, et on a décidé d'en sélectionner un, et ce thème-là, c'est une équation que je ne saurais décrire, parce que, pour rappel, les mathématiques, ce n'est pas forcément mon truc de base, quoi. Et c'est une équation un peu complexe que Florian avait identifié comme étant... Florian, c'est quoi déjà?
Oui, moi je crois avoir deviné de quoi ça parlait, je crois que ça parle de l'attraction gravitationnelle. entre deux voilà. corps célestes. Je crois que ça parle de ça.
Et donc, tout à fait. Moi, ça parle pas du tout de ça, du coup, en ma chronique, parce que j'avais pas identifié, mais c'est intéressant. C'est une chronique qui nous a été, un thème qui nous a été fourni par Cyril, qui nous avait déjà donné un thème, en plus, là, il y a quelques mois. Et donc, Cyril peut être fier parce que c'est le seul éditeur qui a eu deux thèmes. Dans Alien et les garçons. Et comme quelle quoi, alors, il faut savoir qu'il nous a évidemment
on va lui offrir
versé une importante somme d'argent sur notre compte en Suisse, mais n'empêche que c'est le seul à l'avoir fait. Donc voilà. Pour les anciens auditeurs qui ont déjà donné un thème, ils peuvent le défier en envoyant un autre thème, éventuellement, puis on fera des battles, des trucs comme ça. Ça peut être sympa.
Des battles de thèmes.
Si on a d'autres à faire.
Dans une arène et tout.
Donc voilà, donc le thème c'est une équation un peu compliquée qu'on va pas vous décrire là tout de suite, parce que de toute façon on sait pas les lire. Donc moi, je ne sachant pas ce que cela signifiait, j'ai décidé de prendre ça comme le thème mathématique. Voilà, et je vais vous répondre à la question mathématiquement parlant. Je vais répondre à la question pour ou contre la vie.
Tout simplement, tout bonnement.
Tout simplement. Ah,
j'aime.
Et, ça va être, et ça je vous dis tout de suite, ça va être une longue liste de pour et de contre. Pendant 9 minutes. Voilà. Florian, de quoi parle ta chronique ?
Moi, je vais vous raconter l'histoire d'un douanier de l'espace.
Ah, formidable. Et quel rapport avec les maths ? Ah bah non, d'accord, c'est peut-être spoilé, c'est ça ?
C'est peut-être spoilé, on verra bien.
Très bien. Alors, un douanier de l'espace. Et Vic ?
Moi, je vais vous parler... Enfin, je vous ai fait une chronique qui est pleine de secrets pour le commun des mortels. Et comme l'équation l'était pour moi-même, j'ai décidé d'écrire une chronique aussi obscure que ce thème.
Une chronique cryptique.
On va dire ça comme ça.
La cryptochronique.
De toute façon, c'est toujours un peu cryptique avec toi. Donc oui. On va pas se mouiller non plus.
C'est gentil.
Je sais pas si c'est gentil, mais bon, okay. Très bien. Et on va finir cet épisode avec trois superbes recommandations de produits culturels de nos régions dans ce qu'on a appelé le Club Culture et ce qu'on a ensuite rebaptisé. Comment ça s'appelle déjà ?
Le masque et la pipe.
C'est ça.
C'est fou
comme c'est. Personnellement, moi, là, je porte mon masque et je fume la pipe. On a été précurseur. On appelait ça le masque et la pipe avant que le masque ça soit à la mode. Bon, la pipe existait déjà, mais le masque, non. Donc bon, voilà. De là à dire qu'on est des génies, il n'y a qu'un pas.
En parlant de produits culturels, tu parles de produits culturels. Moi, j'aurais envie de parler d'un produit culturel en particulier. T'as pas envie, toi ?
Ah, ça tombe bien, je comptais en parler aussi.
Ah, bah j'avais complètement oublié. Bah vous faites bien. Vous voulez.
Putain,
vous...
t'écris pas de conducteur, t'es vraiment perdu.
Ah bah tout à fait. Alors bah, allez-y, je vous laisse gérer le podcast, je pose le micro.
Non, mais Florian, je t'invite, c'est toi. Je pense que tu es la personne la mieux parlée pour parler de ce qui va suivre.
La mieux parlée.
Car c'est toi. Tu es la personne. Voilà, tout à fait. Tu es la mieux parlée pour placer ce sujet, car c'est toi qui a pris énormément de temps pour qu'on puisse en être où on en est aujourd'hui. Et donc, je te laisse le privilège d'en parler.
Bah, techniquement, on a tous mis autant de temps, et effectivement, j'en ai mis un petit peu plus pour produire cet objet culturel qu'est enfin notre premier livre. Le premier livre estampillé Alien et les garçons. Alors, c'est pas un roman, c'est pas un essai. C'est certainement pas un essai quand on voit la qualité de nos productions, mais c'est un recueil de nos meilleures chroniques. Depuis ces deux années que nous avons passé à dire nos conneries sur les ondes des podcasts et de tous les appareils mobiles de France et de Navarre. Et c'est un
Florian,
bel objet.
Comment se le procurer?
Alors ça va être très simple parce qu'en fait il n'y a que trois exemplaires, je crois, ou deux exemplaires. On va faire un jeu concours sur nos réseaux sociaux, sur Twitter et sur Facebook.
Tout à fait, donc on va pas le faire tout de suite, je pense qu'on va laisser passer peut-être une semaine avec la sortie de l'épisode. De toute façon, on va pas trop se mouiller là-dessus parce qu'on se gourre tout le temps sur les dates.
Oui.
Mais en effet, on va faire un concours de chaque côté, Twitter, Facebook, pour que vous le faire gagner. Et derrière, peut-être que dans un avenir proche, on le mettra en vente. Peut-être qu'on le mettra en e-book gratuitement pour chacun. Peut-être. Voilà.
Mais en tout cas, restez connectés et surtout allez nous voir sur les réseaux pour
Exactement.
Essayer de gagner ce magnifique exemplaire qui sera en
exclusivité. On pourra le dédicacer d'ailleurs.
Ah bah, on a le dos à dédicacer, j'espère bien qu'on va les dédicacer.
C'est de la bonne cam, hein, c'est couverture rigide, mise en page à la hollandaise.
Ah non, on a fait ça bien, on a fait ça vraiment très bien.
Ouais, c'est du papier recyclé en bulle de citron. C'est vraiment un truc de dingue. Mais par contre, je tiens quand même à dire qu'on a fait de grandes réunions de crise. Enfin, on a quand même convoqué le G3 d'Alien et les garçons pour décider de la manière dont allaient être produits les différents concours sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que ça a fait l'objet quand même de grandes réunions. Donc, on a trouvé une super idée de concours qui est retweet, je crois. Enfin, je veux dire, on est arrivé à des choses qui sont assez extraordinaires. Donc, suivez-nous bien.
On est passé par écrivez-nous un haïku, écrivez-nous une lettre d'amour et plein de choses comme ça. Et puis finalement, on s'est dit, on va faire retweet.
On est même passé par juste, on va le lâcher dans les Cévennes en plein milieu de.
Ah oui,
de
on voulait en cacher un aussi. C'est vrai qu'on voulait en cacher un quelque part et donner des indices. Je pense que le livre, il aurait mal tourné.
Ouais, je pense aussi, ouais.
Bref, on va attaquer avec Florian, puis ce sera moi, puis Vic. Florian, à toi de jouer.
À moi l'honneur.
Travis B16.
Travis B16 tire une nouvelle fois sur son tube de somaline. Il en crache un gigantesque nuage qui remplit bientôt l'espace de sa capsule. Quelques secondes suffisent pour que la drogue stimule son exoprocesseur. Son esprit flotte instantanément dans le vide intersidéral, et ce, aussi bien de manière métaphorique que physique. Avant d'inhaler sa dose, il a précautionneusement coupé la gravité artificielle de son vaisseau et enclenché les réflecteurs holographiques. Depuis, les murs en métal diffusent en direct ce qu'il se passe à l'extérieur. De son point de vue, il n'y a donc plus rien qui sépare son corps de l'univers. Du bout d'un de ses pieds, il oriente légèrement les commandes sur la gauche. L'engin pivote de 5 degrés, juste ce qu'il faut pour que la lumière émanant de la bordure extérieure d'Andromède caresse doucement le visage du jeune prépubère. À cet instant, il se dit que la vie a du bon quand même. Après tout, être envoyé en exil à l'autre bout de la galaxie n'a pas que des mauvais côtés. Le tube de somaline flotte sagement autour de sa tête. Il l'attrape d'un geste lent et tire une nouvelle bouffée. Comme son nom l'indique, Travis B16 est le deuxième du nom. C'est son père, Travis Alpha 16, qui l'a envoyé en périphérie d'Andromède après plusieurs événements, disons, malencontreux. Travis est effectivement ce qu'on pourrait appeler un petit con. Il n'est pas un mauvais bougre, mais son tempérament est quelque peu explosif. Du moins, c'est ce que disent les médecins. Sa dernière victime le décrirait plutôt comme un véritable sociopathe s'il en avait encore la capacité. Laissé pour mort sur le sol de la cafétéria, il s'est fait tabasser par Travis après avoir osé dire que sa mère était encore sacrément canon pour son âge. Un compliment, certes, légitime, mais qui n'était pas au goût de B16. Par la suite, l'argent et l'influence du père de Travis dissuadent les parents du pauvre élève slash légume de porter plainte. Mais c'est le dérapage de trop pour le directeur de l'académie, qui décide de l'exclure de manière permanente. Quelques ficelles tirées et plusieurs poignées de main plus tard, Travis trouve un job dans la célèbre 5e flotte de défense intergalactique. Son but, surveiller et protéger une petite portion de la frontière longue de 700 000 années-lumière qui sépare la galaxie d'Andromède du reste de l'univers. L'intérêt de cette flotte tient plus de son impact politique que d'une quelconque utilité publique. Elle comporte toutefois plus de 30 000 troufions, majoritairement des parias, des anciens criminels de guerre ou encore des personnes aux capacités cognitives largement en dessous de la moyenne. C'est ainsi que Travis se retrouve à flotter dans l'espace, défoncé, seul, dans sa capsule à attendre que quelqu'un se pointe. Ce qui n'est, bien sûr, jamais arrivé, et qui n'arrivera certainement jamais. L'adolescent tire une nouvelle bouffée sur son tube, mais rien ne se passe. Il est à court de somaline. Tout à coup, un signal sonore le tire de sa léthargie. Une lumière rouge frappe son visage et les parois métalliques de la capsule réapparaissent. Sur l'écran de l'ordinateur de bord, un message clignote. Un objet non identifié se dirige vers sa position, à vitesse élevée. Impossible d'en définir la nature. Un temps tétanisé par la peur, Travis appuie sur tous les boutons que comporte le panneau de commande. Après avoir déclenché le nettoyage automatisé de la douche et fait réchauffer une ration lyophilisée micro-ondable, il arrive enfin à stopper l'alarme. Il décide alors de contacter ses supérieurs afin qu'ils lui dictent la procédure à suivre. Sa courte formation ne l'a pas préparé à ce genre d'événement. Quelques sonneries plus tard, l'ordinateur lui indique qu'un trou noir empêche toute communication directe et qu'une manœuvre est nécessaire, mais Travis n'a pas le temps. L'objet avance à toute allure et risque à tout moment de lui passer devant le nez. Il prend son courage à quatre mains et allume les réacteurs de sa capsule. Il doit tenter de l'intercepter avant qu'il ne soit trop tard. Sur le chemin, il tente de communiquer avec l'engin, mais sans succès. Il n'est plus qu'à une centaine de kilomètres de la cible, une distance suffisante pour lancer une analyse avancée. Une fois terminé, l'ordinateur transmet son rapport. L'objet semble être un disque légèrement concave, de plusieurs dizaines de centimètres. Il est encore impossible de connaître sa composition. Plus que 10 km avant le contact. Il manœuvre sa capsule afin de s'aligner sur la direction de l'OVNI. Il accélère ensuite progressivement et enclenche les réflecteurs holographiques. Les murs disparaissent. Il tourne la tête, mais n'aperçoit encore qu'un point brillant à l'horizon qui grossit petit à petit. Les deux engins avancent bientôt à la même vitesse. Tout doucement, le disque se rapproche du vaisseau. Quelques minutes plus tard, ils se trouvent tous deux côte à côte. de telle sorte que, sans repère visuel, et malgré leur vitesse de plusieurs mètres par seconde, ils semblent immobiles dans l'espace. Travis peut désormais observer le disque à l'œil nu. Il est strié de part en part d'inscriptions, toutes plus étranges les unes que les autres. La lumière se reflète fortement à sa surface, laissant supposer une matière métallique, du cuivre selon la couleur, un matériau qui n'existe plus depuis plusieurs générations dans la galaxie d'Andromède. Il comporte aussi de nombreux impacts de micro-astéroïdes, et un morceau semble avoir été arraché durant son voyage. Quoi que ce soit, l'objet doit avoir traversé une bonne partie de l'univers avant d'arriver ici, à cet endroit précis, à cet instant précis. Malgré toutes les contorsions de l'adolescent, il n'arrive pas à déchiffrer les inscriptions. Il se passe une heure d'un combat de regard intense avant que Travis ne prenne la décision d'embarquer l'objet dans son vaisseau. Une séance de lecture du manuel d'instruction plus tard, il arrive à déployer le bras robotisé de sa capsule et attrape l'engin avant de le déposer dans la soute. Le disque est froid comme la mort et sent le soufre à plein nez. Encore un peu défoncé, Travis a l'impression que l'objet vibre drôlement. À peine a-t-il effleuré sa surface qu'il émet une note aiguë qui résonne dans toute la pièce. À y regarder de plus près, l'OVNI ressemble à ces vieux disques en tungstène sur lesquels on gravait des chansons. Mais à la différence de ces reliques, les sillons qui y sont gravés ne sont pas continus. L'ado a bien pensé une seconde que cela puisse être une sorte de langage, des mots ou des dessins. Mais si c'est le cas, ce n'est certainement pas une langue qu'il connaît, due de ses maigres connaissances d'un académicien de second cycle. Après avoir passé un bon bout de temps à l'observer, il empoigne les bords du disque. Alors qu'il le retourne, l'ado lâche tout à coup l'objet, qui s'écrase sur le sol dans un fracas assourdissant. Là, au milieu du disque, se trouve une inscription qu'il arrive à déchiffrer. C'est pas grand-chose. Quelques caractères, tout au plus. Une ancienne langue andromédienne dont il a croisé le chemin durant les sorties de classe au musée. Les mots qui y sont inscrits ne veulent pas dire grand-chose dans sa langue natale. Toutefois, en assemblant certains signes, il arrive à construire une sorte de phrase. Une suite de mots, à la grammaire mauvaise, comme si un enfant avait gribouillé ce qui lui passait par la tête sans faire attention à la forme. Ces inscriptions évoquent chez Travis des sensations, des idées, des souvenirs. Mais surtout, du sens. Il s'y reprend à plusieurs fois afin d'être bien certain de la signification, mais il n'y a pas de doute possible. Son visage est d'abord marqué par la stupeur et la frayeur. Puis, sans trop savoir pourquoi, vient la colère, qui déforme ses traits et le transforme complètement. Il s'apprête à lâcher un cri qui ferait frémir un ébullien. Personne ne sait ce qui l'a poussé à faire ce qui va suivre. Colère ou drogue? Certainement un habile mélange des deux. Dans la seconde qui suit, Travis demande à l'ordinateur de bord d'analyser la provenance du disque. Il allume ensuite les moteurs de son vaisseau, cette fois-ci à pleine puissance. Il fend les nuages de poussière cosmique en laissant derrière lui un rayon argenté qui s'étend sur plusieurs milliers de kilomètres. Une fois le calcul terminé, l'écran affiche une paire de coordonnées, ainsi qu'une situation grossière du point d'origine sur une carte holographique. Sa destination se trouve à 2 500 000 années-lumière d'ici. Sans perdre de temps, Travis lance le générateur de distorsion. Direction, la Voie lactée. Troisième planète en partant du centre du système solaire, une petite tellurique qui porte le nom de la Terre. Le voyage ne dure que quelques heures. Une rage monumentale s'empare de lui lorsqu'il voit pour de bon la planète qui a osé lui transmettre ce message. Lorsqu'il est à bonne distance, il stoppe complètement son vaisseau et décide de contempler pour la première et dernière fois sa future victime. Mais alors qu'il l'observe sous toutes les coutures, le doute s'installe. Serait-ce les effets de la drogue qui s'estompent, ou peut-être un éclair de lucidité qui frappe le jeune adolescent? Toujours est-il qu'une larme se forme au coin de son œil et se met à glisser le long de son visage. Il l'essuie dans la foulée, d'un revers de la main. Après un court moment de flottement, Travis pousse un grognement et sort le tube de somaline de sa poche. Il fait disparaître les murs de sa capsule avant de s'allonger et de tirer fortement sur le tube métallique afin d'en extraire la moindre goutte de substance psychotrope restante. Il se laisse le temps de cette défonce avant de prendre sa décision. Il flotte quelques minutes en contemplant cette planète bleue qui est devenue pour lui un véritable objet de fascination. Il n'arrive pas à la quitter des yeux. Alors qu'il tire machinalement sur le tube, celui-ci émet un léger signal sonore, indiquant qu'il ne reste définitivement plus aucun combustible. Travis s'installe calmement dans son fauteuil et détourne son regard de la jolie planète. Les minutes qui suivent, il fuit son image, honteux d'avoir pensé ne serait-ce qu'une seule seconde vouloir la détruire. Il s'empresse de rentrer les coordonnées de sa galaxie d'origine et effectue, de manière inhabituellement procédurière, les tâches préparatoires au voyage intergalactique. Avant d'initier la phase de démarrage, il jette un coup d'œil par-dessus son épaule. Son regard traverse le hublot et se pose une dernière fois sur la Terre. Cette planète qui, plusieurs millions d'années auparavant, a envoyé un disque gravé en direction d'Andromède et a trouvé Travis comme destinataire. À sa surface, les Terriens ont inscrit tout un tas de messages, de dessins, mais aussi une simple équation, qui avait pour objectif de déclarer à quiconque tomberait dessus « Coucou, c'est nous les Terriens! Regardez comme on est intelligents !» mais qui, dans le langage andromédien, signifiait plutôt « Ta mère est une grosse p***!» Malgré tout, l'ado lève la main et la gesticule en direction de la planète bleue. Un geste timide qui signifie à la fois « Adieu » et « Je te pardonne » dans sa culture. Il enclenche ensuite le générateur de distorsion et disparaît. dans le néant.
C'est un quiproquo, n'est-ce pas ?
C'est un quiproquo plus ou moins. Qu'est-ce que t'entends par un quiproquo ? Vas-y, explique-toi.
Bah, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé les terriens, ces idiots de terriens, envoient des trucs dans l'espace avec des équations dessus.
Exactement.
Et ces équations-là, ça veut dire nique ta mère en.
Ça veut dire ta mère est une.
Si
est
c'est
une
pas
fille
un quiproquo. Voilà, si c'est pas un quiproquo, je.
Non, c'est effectivement un quiproquo. C'est effectivement
j'y
un
rien.
Quiproquo.
Parle-nous. Vas-y, Vic.
Pardon. C'est le disque gravé des sons de Voyager, enfin son, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Globalement, c'est ça. Alors a priori, en fait, on en a envoyé plusieurs dans l'espace.
Ah bon.
Ouais. Et même par des initiatives privées. Et je me suis dit qu'effectivement, sur l'un de ces disques, il pourrait très bien y avoir l'équation de notre fidèle auditeur, et que ça pourrait pouvoir dire plein de choses, parce qu'en fait, les mathématiques, du coup, on se demande si c'est pas l'une des seules langues universelles qui puisse exister dans l'univers, s'il y en a une. Et, ouais. Et je me suis dit qu'une équation comme ça peut vouloir tout dire. Ça peut vouloir dire on est intelligent, comme ça peut vouloir dire ta mère est une mauvaise fille.
Mais il y a eu plein de trucs effectivement qui ont été envoyés par des initiatives privées. J'ai moi-même envoyé une page de Word dans l'espace.
C'est vrai ?
Enfin, je ne sais pas vraiment si elle est partie, mais en tout cas, je ne me rappelle plus du nom du programme, mais il permettait via un site internet de. Tu pouvais écrire ce que tu voulais sur une feuille et le télécharger dans un truc qui était envoyé dans l'espace. Ils avaient prévu une feuille Word, équivalent à une feuille Word, par être humain. Pour être envoyé dans l'espace.
C'est les trucs d'internet. Moi, une fois, j'avais commandé un truc pour agrandir, enfin bon, un truc, et ça marche pas. Hein. Franchement.
T'es du même acabit des personnes qui achètent une étoile ou ce genre de choses, non ?
Non. D'ailleurs, il a acheté une dizaine d'étoiles, cool. Il a une constellation.
C'est clair. Mais non, mais sur le disque là, en fait, ils ont gravé des trucs. Enfin, sur les disques de Voyager, ils avaient gravé effectivement des trucs avec des vieilles formes d'humains et des et je sais plus trop quoi, les distances pour venir sur la Terre, etc. Mais surtout, ils avaient gravé le disque en fait.
Oui.
Enfin, je sais pas trop.
C'était un vrai disque.
Ouais, c'était un vrai disque. Et dedans, ils avaient mis plein d'extraits de langues, je crois. Ils avaient mis des musiques. Ils avaient mis des trucs qui décrivaient dans plein de langues les êtres humains, etc., etc. Enfin, bon, le problème, c'est qu'il fallait un lecteur vinyle.
Ils auraient pu le fournir, mais non, même pas.
Ouais.
Ouais, quand même. Ça, et puis l'autre problème, c'est qu'il n'y avait pas Yann et les garçons dessus, parce qu'on n'existait pas encore.
Pas encore.
Oui, ça,
on devrait faire ça. Ça, c'est du marketing. Ouais, non, peut-être pas. Peut-être pas. Non, je me suis déchauffé direct.
Mais tellement vite. Non, mais en fait, il faudrait qu'on contacte Elon et lui proposer de mettre. Au moins de diffuser Alain et les garçons dans la Tesla de l'espace, là.
Ce qu'il y a, c'est qu'il en est capable. Il en est capable.
Il en est capable, si seulement
on connaissait. C'est juste qu'on est. Il doit y avoir 10 mecs comme nous par jour qui se disent on va contacter Elon Musk, il en est capable pour faire X truc, tu vois.
C'est clair.
Je voulais.
On l'a déjà contacté d'ailleurs.
Non.
Ah, si, sur Twitter.
Si, on l'a déjà contacté sur
oui,
Twitter.
Oui, mais ça compte pas. Ça compte pas vraiment, si. On va bientôt contacter Barack Obama. J'ai un plan. J'ai un plan.
Je crois qu'on l'a déjà contacté.
On va le hâter. Moi, je voulais vous dire un truc. C'est la première chronique du sous-genre de science-fiction Big Dump Object. Vous connaissez ce genre de science-fiction dont est issu de Bill Antis et l'espace et tout ça, quoi.
Non.
Big Dump Object. Bah voilà. C'est vrai que c'est un truc. Ça se dit. Moi, je trouve que quand j'étais plus ado, on en parlait plus. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu tombé en désuétude, mais Big Dump Object, BDO, hein, comme on dit. C'est, tu sais, c'est quand tu, en effet, il y a un espèce de truc, un monolithe qui apparaît sur la Lune.
Ouais, d'accord. Ouais.
Mmh. Des choses, genre de choses, on ne sait pas ce que c'est, voilà, et ça ne parle pas, et on est confronté à ça.
Mais en tout cas, moi, tu fais bien de noter que. Parce que tu ne l'as pas noté, que je suis revenu. C'était un peu une espèce de catharsis pour moi. Je suis un peu revenu du coup de détruire la Terre. Tu vois, au début, je voulais écrire ce cher Travis Besiktin qui se fait insulter sa mère. Sur un disque en cuivre et qui est un petit peu tendu sur les bords et du coup il va vers la Terre et il détruit la Terre. Et je me suis dit non, il va pas faire ça. Si j'imagine un Andromédien qui se fait insulter, peu importe quoi qu'il arrive, s'il arrive devant la Terre, il va se dire ah, c'est quand même dommage, non, c'est con quoi. Et à travers ça, je me suis dit. Ok, c'est fini. J'arrêterai de détruire la Terre dans mes chroniques. Je m'engage maintenant, tout de suite, à ne plus détruire la Terre.
C'est beau.
Est-ce qu'on remet en le comment ça s'appelle ça l'endroit où on mettait de l'argent là, la cagnotte.
La
remet pour toi. C'est-à-dire que si jamais tu détruis la Terre, tu mets tout ton PEL dedans.
Mais j'ai plus de PEL. Mais est-ce que ça marche si je détruis d'autres planètes ?
Non, c'est ok les autres planètes.
Bon bah ça va alors, c'est ok. Moi je veux bien alors. Pas de souci.
Moi, je voulais ajouter un dernier truc. La somaline, la drogue.
Oui.
Donc rien à voir avec le pays d'Afrique, j'imagine, mais
aucunement.
Ça sonne comme une vraie drogue.
Alors oui, parce que j'ai tiré ça de je ne sais plus quelle œuvre, ce qui est, où la drogue c'est le soma.
Et du... Ah, mais c'est geek.
Oui, c'est possible. Oui.
Et ouais, non, mais ouais. Donc du coup, et donc tu l'as rajouté un petit
suffixe qui sonne bien chez nous.
Ouais, ça sonne très bien.
Ouais.
J'étais sûr de n'avoir pris quoi. Tu vois, ça sonnait si vrai.
Non, puis j'aimais bien l'idée d'avoir une espèce de tube comme une cigarette, tu vois, mais une cigarette de l'espace et qui défonce quoi, sans vraiment savoir ce que c'est. La somaline du coup quoi.
Bah, moi, je me suis noté des trucs aussi, pour conclure. Le premier truc, c'était que je me suis dit au début, comme ça commence ta chronique, tu parles un petit peu comme dans une VO de documentaire Netflix. Ton ton de voix au début, et je me suis dit, je me suis fait emporter dès le début, c'était cool. En plus, c'était plutôt bien mixé. Et par contre, j'ai besoin d'une précision. Un moment, est-ce qu'il fait disparaître les murs de son vaisseau? Il est à l'intérieur de son vaisseau et il fait disparaître les murs pour mieux voir à l'extérieur ou pas?
Oui, c'est exactement ça. Mais il fait pas disparaître les murs en fait. C'est des comme s'il y avait des écrans, tu vois, à l'intérieur de sa capsule.
Ouais, et ben ça, j'ai trouvé ça trop cool. Et je me dis que ça pourrait vraiment être le futur, quoi. Si on faisait ça aujourd'hui dans n'importe quoi, au lieu d'essayer de se rendre invisible, de rendre invisible les trucs qui nous entourent, si on faisait ça dans une voiture, par exemple, alors je sais pas si c'est avec un système d'écran, effectivement, c'est les premiers trucs pour l'invisibilité, mais si vraiment on pouvait faire disparaître ce qui nous entoure, notre maison ou quoi que ce soit, c'est pour nous permettre de vivre sans mur et plus au milieu des choses, au milieu d'une route, tu vois, pour se donner un peu plus de sensation. Si c'est une voiture à 130 sur l'autoroute, tu fais disparaître la voiture, ça doit être un peu d'adrénaline, quoi. Ou ta maison pour avoir l'impression de moins être cloisonné, etc.
Non, mais ça, surtout,
c'est une idée super cool, quoi.
T'imagines, il y a un projet d'avion comme ça. Enfin, je sais pas si c'est un projet, mais j'ai vu sur internet.
C'est vrai,
un,
ouais. Avec le sol, non?
Non, avec le sol et tout, même partout, en fait. Et du coup, c'est des écrans.
Ça doit être fou dans un avion,
c'est clair. Et t'as l'impression d'être dans le ciel.
Non, mais surtout, ça, t'imagines, ça défonce, effectivement. T'as une petite maison au bord de la mer, etc. Tu fais disparaître les murs, c'est comme si t'étais. Je pense par contre que du coup t'as un vieux sentiment de, ça serait intéressant de voir ce que ça fait sur le cerveau, mais je pense que t'as un sentiment d'être un peu perdu, mais ça doit être quand même sacrément cool d'avoir une maison comme ça qui te donne
et
directement
et de se balader tout nu dedans.
Ah, ce serait trop ouf. Gros kiff.
Ouais, ça serait pas mal. Ouais, enfin, en tout cas, j'ai trouvé cette idée très chouette. Bravo, félicitations.
Ben, merci beaucoup.
Bravo Florian.
Merci Thomas.
Est-ce qu'on est tout bon?
Voyons voir s'il y a des meilleures idées dans la chronique de Thomas.
Oui.
Pour ou contre la vie. Pour le couscous, David Bowie, les Rocking Chairs, le Mistral. Contre les génocides, la déforestation, les échardes, Jean d'Ormesson. Pour les bruits de pas dans la neige, les patios, aller au cinéma dans une salle vide. Contre, aller au cinéma dans une salle pleine, les lumbagos, la transpiration des mains. Pour, Christopher Priest, le houmous, les pastèques fraîches pendant la canicule, les nuages. Contre, marcher avec les chaussettes mouillées, marcher avec un caillou dans la chaussure, marcher dans une déjection canine. Papy traînait difficilement ses vieilles jambes à travers la vieillesse. Si depuis quelques années, son cerveau et sa mémoire lui jouaient des tours, il se souvenait quand même avoir lu quelque part que les hérissons étaient capables de se déplacer jusqu'à 3 km/h. Papy se sentait humilié, plus encore qu'il ne l'était en temps normal, il l'était énormément, par le fait scandaleux que ce petit mammifère dégoûtant, pas plus grand qu'un double décimètre, pouvait le battre au 100 mètres, ou même au 10 mètres, ou même au 1 mètre. À vue de nez, il n'y avait aucun hérisson aux alentours, et encore moins de hérissons compétiteurs cherchant à défier Papy dans une course endiablée. Pourtant, Papy pestait. Il dégorgea une mélasse d'insultes destinées à l'ensemble des espèces hérissons qui aient pu un jour porter la terre, puis, comme capté par le courant fou d'un torrent fécal, il enchaîna sur le reste de la création, humain inclus, bien entendu. Être grincheux est une chose, en vouloir au monde entier en est une autre. Papy avait un problème avec la vie. Pour la mer, le Mexique, la poésie, Adam Levine, la cuisine à l'huile d'olive. Contre l'élevage industriel, la chemise qui remonte dans le dos quand on porte un sac à dos, les Lyonnais, les sinusites. Pour la faculté de rire, Albert Camus, regarder les branches d'un arbre en étant sous l'arbre, chanter,
faire pipi après avoir attendu longtemps. Contre, les codes Wi-Fi trop longs, les hommes politiques, les dogmes, les religions, les ragondins. Pour, fouiller dans une bibliothèque pour la première fois, les jeux de rôle, se coucher le soir, se lever le matin, le café. Contre, le sable qui colle aux pieds à la plage, le système capitaliste qui répartit les richesses inégalement et fabrique le consentement de la population qui demande dès lors plus d'inégalités et encore plus de capitalisme, les petits déjeuners chinois. Papy tentait de répondre à la question suivante. Pour ou contre la vie ? Il est vrai que la question était biaisée, non pas dans sa formulation, mais de par son médium, puisque Papy l'avait non sans arrière-pensée, rédigé au feutre épais, directement sur le bitume du trottoir où il avait, des années plus tôt, été quitté par sa femme, désormais ex-femme, alors qu'il s'entêtait comme à son habitude à faire intervenir Arthur Schopenhauer dans une dispute conjugale pourtant tout à fait étrangère à la philosophie allemande du XIXe siècle. La question ainsi inscrite sur le sol était accompagnée d'une première colonne « pour » de 180 mètres et d'une seconde colonne « contre » de 179 mètres. C'est bien de ça qu'il s'agissait, déterminer les pour et les contre de la vie. Chaque jour, Papy venait rallonger de quelques réponses les deux colonnes sous les regards lourds de mépris des riverains grimaçants qui n'avaient ni lu Arthur Schopenhauer, ni vécu assez longtemps pour comprendre l'écœurement de Papy, ni même envisager d'un jour se poser la question pour ou contre la vie, ou même aucune autre question pour une bonne partie d'entre eux. Pour, l'odeur de la fleur d'oranger. Roberto Bolaño, les tableaux symbolistes, les Beatles, le chant des tourterelles, le jus de citron. Contre, les banquiers, les adultes qui aiment inconditionnellement les enfants méchants. Devoir aller chez le dentiste, avoir envie d'éternuer, puis finalement non. Pour, les transports en commun. Contre, les transports en commun. Pour, Alain Damasio. Contre, Alain Damasio. Papy avait hésité longtemps concernant la question. Il avait hésité avec « Faut-il que je regrette l'humanité ? Pour ou contre les autres ? Plutôt continuer ou plutôt arrêter ? La vie vaut-elle d'être vécue ? Ma vie vaut-elle d'être vécue ? Les autres méritent-ils la vie ? Faut-il protéger l'espèce en voie de disparition que je suis ? Une sieste sans fin n'est-elle pas supérieure à un réveil enfariné éternel ? Si la vie est un parc d'attractions, ne serais-je pas plus à mon aise sur une aire d'autoroute ? Le suicide est-il la porte de sortie ou la sortie de secours ? Puis-je m'avorter à 91 ans ? Papy avait eu toute une vie pour ruminer ces questions amères qu'il avait d'ailleurs effectivement ruminées toute sa vie. Mais il trancha finalement par le sobre et lapidaire, pour ou contre la vie, accompagné de ses deux colonnes qu'il allait garnir au quotidien, comme le fleuriste garnit une couronne mortuaire. Pour, le mot nuit et le mot jour. Faire un feu, les cieux étoilés, Baldur's Gate 2, l'odeur du bitume après la pluie, Nietzsche, contre, Descartes, les téléphones portables, les épidémies mondiales, rater son train, le manque de place dans les avions. Papy le savait. S'il avait été une bougie, il aurait la mèche qui trempe dans la cire fondue. Autrement dit, Papy rejoindrait bientôt le néant. Il avait décidé qu'il était temps de décider. De décider, c'est finalement, en fin de compte, tout compte fait, après mûre réflexion, il allait ou n'allait pas se suicider. Et cela, avant que la mort et sa faux tranchante ne lui coupent l'herbe sous le pied. Il était temps, effectivement, car cette question l'avait hanté toute sa vie, sans jamais qu'il ne prenne le temps d'y consacrer une énergie suffisante pour lui apporter une réponse raisonnée, occupé qu'il était à échapper aux autres, à leurs bêtises, aux responsabilités, à la société et au reste. Sentant le dernier jour se rapprocher sur les rails de l'existence auquel il avait été ligoté par ses parents le jour où, ivre, papa décida de trousser maman sur la table de la cuisine en rentrant de la messe, Papy avait donc entrepris son grand œuvre, et soudain, la réponse lui apparut. Pour, les chiens gentils, les chats câlins, se gratter là où ça gratte. Contre, Bernard Tapie, les GAFA. Les miettes dans le lit. Le train du dernier jour avait été à l'heure. Il passa alors que Papy glissa sur le trottoir et se fracassa le crâne dans la colonne pour. Depuis sa plus tendre enfance, Papy s'était imaginé mort. Il s'était imaginé asphyxié, découpé, brûlé, pendu, décapité, éclaté, explosé, brisé, haché, ou tout simplement gravement malade, comme finissaient la plupart des vieillards nés en 1929. Mais il ne s'était pas imaginé glisser bêtement sur un trottoir, parce qu'un peu trop enthousiasmé d'avoir enfin trouvé la réponse à la question de sa vie, et par la force des choses, de sa mort. Au moment de son dérapage, Papy venait d'ajouter un dernier contre à la colonne éponyme, à savoir la couleur violette, portant ainsi les contre à 4082 réponses face à une colonne des pour à 4081 réponses. C'est alors que Papy décida qu'il avait suffisamment retourné la question dans tous les sens et qu'il avait maintenant sa réponse définitive. Il était contre la vie. La suite du programme aurait dû être un suicide en bonne et due forme, mais les contingences de la vie, cette mauvaise perdante, en avaient décidé autrement. Et maintenant, Papy était mort. Pour les musées. Contre la couleur violette. Les riverains grimaçants ne grimacèrent plus en voyant Papy la tête sur le bitume. Leurs visages se déployèrent de stupeur comme un selfie stick et plusieurs d'entre eux appelèrent même les secours. Les secours, c'était Bertrand et Solène, qui étaient rémunérés par l'État pour déplacer le corps de Papy encore plus froid et raide que d'habitude. Une fois Papy bien rangé dans son brancard, Bertrand remarqua la tache de sang dans la colonne pour. Romantique qu'il était, il la désigna à Solène et lui fit remarquer qu'elle était en forme de cœur. Solène ricana en frôlant volontairement Bertrand avec sa chevelure de feu bourrée de phéromones. Un cœur, dans la colonne des pour. Voilà qui aurait déplu au plus haut point à Papy. Oui, mais Papy n'était plus, et une réponse est une réponse, aussi dégoulinante de bons sentiments qu'elle puisse être. Contre, 4082 réponses. Pour, 4082 réponses. Match nul.
Superbe, superbe chronique, superbe musique, bravo, j'aime beaucoup l'idée.
Ouais, c'est très cool.
Qui n'a jamais commencé une liste de plus de 200 mètres sur un trottoir?
C'est un truc qu'on devrait faire. Tu sais quoi, c'est même un truc que l'État devrait faire. Et faire un monument, le placer au milieu d'une grande place parisienne, et les gens devraient pouvoir écrire les pour et les contre au fur et à mesure, tu vois. J'adorerais qu'on puisse faire ça.
Putain, t'aurais beaucoup de contre.
Ça pourrait être une œuvre d'art, pour le coup. Ça,
oui, mais il y aurait beaucoup de contre, mais je fais confiance en la vie, je fais confiance aux gens pour remplir les pour aussi, ouais. Parce qu'il y a quand même pas mal de pour, tu vois.
Alors, pour être l'auteur de cette chronique, et donc j'ai dû écrire les pour et les contre, les contre viennent vraiment très facilement en tête. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Et je me suis retrouvé à un moment donné à me tourner vers ma copine, lui dire tu peux me donner des bonnes raisons de rester en vie, s'il te plaît? Parce que là, tout de suite, tu vois, t'en trouves vite, mais au bout d'un moment, ça bloque. Des contre, bah, ça vient tout seul.
Mais c'est bien parce que t'as, en te focalisant un petit peu sur des petites choses, ce qui rend le truc plus rigolo que des choses un peu évidentes, ouais. Tu vois, genre l'amour de machin, le regard des enfants, je sais pas quoi, de ce genre de truc, ça rend le truc vraiment romantique et ça rend le truc vraiment marrant, parce que sinon tu peux en trouver
des
pour un peu. Par contre, on sent que les goûts de Papy à ce propos-là, c'est tes goûts.
Oui, c'est papy, clairement, c'est clairement autobiographique. Ouais.
C'est moi, Papy. Hein.
Alors, Papy, il aime pas les Lyonnais.
Pourquoi t'aimes pas les Lyonnais d'ailleurs?
Je rappelle pour les auditeurs que je suis lyonnais, enfin je suis villeurbanais, ce qui est pareil. Hein. En vérité, j'ai rien contre les Lyonnais. C'est juste que c'est plus facile déjà de cracher sur son église à soi. Et c'est vrai que les Lyonnais, je les trouve pas sympas. Quoi. Enfin, je trouve que c'est pas les gens. On va se prendre des mails d'insultes. Déjà, tout à l'heure, j'ai dit que Soma, c'était Philippe Cadic. J'ai vérifié, c'est pas du tout Philippe Cadic. On s'est gouré. Et non, les Lyonnais sont pas. Je trouve que c'est pas le peuple le plus chaleureux de France.
Quoi. Et ben moi, je vais contrebalancer parce que moi, j'aime bien les Lyonnais. Les Lyonnais, ils m'ont accueilli pendant mes études. Je les ai trouvés formidables. Je me suis fait plein de très bons amis. Bravo, les Lyonnais. Et bravo, la nourriture lyonnaise.
Et pour Lyon et Pipip. Ok, voilà. Personne dit aura, très bien.
Te dire, eh ben, j'avais d'autres questions aussi concernant tes contres, du coup les contres de Papy, mais aussi tes contres, forcément. Les hérissons.
Alors, j'ai mis les hérissons n'étaient pas dans les contres. C'est Papy qui, au début, Papy était un peu foufou, hein, comme je le disais, il perd un peu la tête. Il est juste en colère, parce qu'il est en colère contre tout, il est amer contre tout, de réaliser qu'il marche tellement peu vite maintenant qu'un hérisson marche plus vite que lui. Mm-hmm. C'est tout. Mais en fait, techniquement, les hérissons ne sont pas dans les. pour ni dans les contre.
Non, mais ça va.
Et à choisir, je le mettrais plutôt dans les pour quand même.
Bah oui, c'est mignon quand même, Harrison.
Après, c'est plein de puces et tout, donc bon, voilà. Ouais. Mais, et puis ça pique, mais bon, quand même, je le mettrais dans les pour parce que je suis pas aussi amer que papy.
Et après, je vais donner mon avis parce qu'on l'a pas demandé, mais les pastèques, moi, je mettrais ça dans les contre. J'aime pas la pastèque.
Aïe, 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 aïe. Mais tout ça, je me l'étais noté sous la chronique que de toute façon, on allait faire un débat des pour
c'est
et des
sûr.
Contre. C'était sûr. La pastèque, t'aimes pas la pastèque, je respecte. Par contre, je te respecte pas, toi. Désolé.
Oui, pas de soucis, t'inquiète.
Et peut-être que Vic peut trancher pour ou contre la pastèque.
Je suis désolé Thomas, mais c'est contre, c'est clairement contre.
Je
mais,
coupe mon micro.
Mais vous savez quoi je crois que d'ailleurs on en avait.
J'ai remis mon micro.
On en avait un peu parlé, je crois, quand on était au ranch, un petit peu éméché par le Romanetti, mais on devrait faire un podcast de pour et de contre. Et vu qu'on est trois, ça nous permettrait de trancher à chaque fois, et ce serait l'avis ultime.
Oui, c'est vrai.
Tu
oui,
vois.
C'est vrai. Et je voudrais faire un point maturité, et je voudrais que vous remarquiez que. J'ai donné donc mon avis sur plein de choses de la vie, les pour et les contre. Et comme un adulte,
t'as pas mis les Allemands.
Que je suis, j'ai pas mis les Allemands. Et donc, parce que voilà, je suis en paix avec moi-même, je suis en paix avec l'Allemagne. Et autre chose, mais il y a quelqu'un sur qui je tape aussi régulièrement, c'est Laurent Dutch.
Ah, c'est
et,
vrai.
Ben oui, je l'ai pas mis dedans non plus.
Dutch.
Oui, c'est vrai. Il y a un lien.
Les Allemands. Il y a un lien. Ouais.
Donc, moi, sur tes pour et tes contre, je voulais pas divaguer en les reprenant tous parce que d'une manière générale, je suis plutôt d'accord avec tout, sauf avec la pastèque. Ouais. Et je voulais juste mettre une précision plus sur le se gratter là où ça gratte. Tu dis que c'est un pour. Je suis tout à fait d'accord, mais je trouve que c'est le seul pour de la liste qui se transforme en contre quand tu le réalises, parce que se gratter là où ça gratte, ça te après t'être gratté, t'es un peu dégoûté parce que ça te gratte encore plus. Et ça, je trouve ça un peu énervant. Je tenais à faire cette précision.
Je comprends, mais ça dépend de la nature du grattage, dans le sens où si c'est un bouton ou un truc comme ça, oui, mais c'est juste ça te gratte parce que ça te gratte, tu te grattes, ça va mieux.
Ouais, c'est vrai que je voyais ça comme un truc d'ortie ou quoi, mais je voulais mettre cette précision.
Les orties, c'est contre. Hein. Les orties, c'est contre. Attention.
Et l'autre truc que je voulais une demande, j'avais une demande de précision aussi, c'était les adultes qui aiment les enfants méchants. C'est quoi?
Alors,
ça veut dire quoi?
Non, c'est comment vous dire? On va rentrer dans un truc. Plusieurs, pour être exact, c'est les adultes qui aiment inconditionnellement les enfants méchants. C'est moi qui. J'ai rien contre les enfants, hein. J'aime plutôt bien les enfants, mais je trouve ça toujours un peu dommage de, et ça me fait peur même ce côté génétiquement programmé en toi qui fait que tu dois aimer les enfants, parce que c'est un vrai truc en plus.
Ah, non, mais d'accord,
et,
ok.
Et je trouve que les enfants sont globalement pas des gens bien. Et que les gens les aiment beaucoup, et je trouve ça vraiment pas juste. Je trouve que
c'est pas qu'ils sont bien ou pas bien, c'est qu'ils ont pas d'âme. Enfin, en tout cas, ils se cherchent.
ils sont plutôt méchants, quoi. Au niveau, tu vois, ils ont pas encore trouvé la niche évolutionnaire de l'entraide. Ils croient encore qu'en étant égoïste, ça marche. Et c'est sur les coups de 10-12 ans qu'ils se rendent compte que ça marche pas et qu'il faut s'entraider. Et donc, globalement, c'est un peu des sales cons, les enfants.
Mais, ok, je comprends. Les enfants méchants, en fait, c'est tous les enfants.
Oui, c'est vrai.
Les
enfants mais je voulais pas mettre contre les enfants froidement, parce que là, clairement, on allait me tomber dessus. Déjà que j'ai mis les Lyonnais, je vais avoir des emmerdes. Pff.
Ouais, c'est un peu une chronique risquée quand même.
Ah bah là, autant dire que j'ai pris parti. Hein.
Et vu que tu as innové dans la pour aliéner les garçons dans la littérature de Liszt, j'avais lu il y a quelques années, je l'ai retrouvé là pendant, je l'ai cherché pendant que j'écoutais ta chronique. Il y a un bouquin d'un auteur qui s'appelle Charles Danzig, qui s'appelle Encyclopédie capricieuse du tout et du rien, où en fait tout le bouquin c'est juste une succession, c'est 600 pages, hein, 600 ou 700 pages, et c'est que des Liszt. Et en fait,
ah, c'est cool.
Alors c'est des Liszt, alors c'est moins conceptuel parce que c'est pas une grande liste d'un seul sujet qui fait la force de ce que tu disais, mais c'est des Liszt de plein de choses. Et en fait, quand tu lis ça pendant 700 pages, bon, je pense que je m'étais arrêté avant, ou en tout cas, c'est un truc que tu picores de temps en temps. Ouais. Il y a une sorte de poésie qui sort, je trouve, de la liste. Même quand tu faisais ton truc, ça.
Comme par exemple, quel type de liste ça pourrait être, genre mes livres préférés ou genre.
Non, ses livres préférés, ça peut être, il fait une liste pour faire un espèce d'autoportrait de lui où il va définir des trucs comme ça. Il va faire des listes, je m'en rappelle plus trop du coup, parce que je te dis, ça fait un moment que je l'ai lu, mais.
Ouais, c'est intéressant, c'est cool.
C'est des listes vraiment, voilà, c'est des.
Non, mais listes. C'est cool les listes. Moi, je trouve que on aime plutôt bien les cartes dans la ligne des garçons, les cartes, les plans. Et je trouve que la liste est aux cartes ce qu'elle est à la littérature, pour parler de manière pas du tout correcte et un peu bizarre. Mais je trouve qu'en fait, faire des listes et noter comme ça sans du tout construire des phrases ou n'importe quoi, bah, il y a quelque chose de clair et de spécifique. C'est un peu un mode d'emploi et moi j'aime bien.
C'est vrai.
Faisons des listes.
Surtout, moi je, voilà. C'est et peut-être qu'on conclura sur ça, mais j'aime bien l'exercice. Un petit peu de poursuite du bonheur, de lister les pour et les contre de la vie, tu vois. Ça nous fait un peu relativiser et ça nous fait nous dire que soit les pour l'emportent et du coup c'est cool, soit on est contre et à ce moment-là, bah effectivement, on cherche une solution, quoi. Mais au moins, ça règle le problème du bonheur, quoi.
Exactement, de manière justement très mathématique, qui faisait le lien avec le thème de Cyril, parce que moi, je suis pas comme toi, je savais pas ce que c'était que cette équation. Voilà. Et puis aussi, je rappelle que je l'ai écrite il y a 3 jours, cette chronique. Hein, alors merde.
Enfin, la théorie de Florian, il faudrait que Cyril nous la confirme ou l'infirme, parce qu'on n'est pas du tout sûr.
Non, c'est clair.
Vraiment compris, hein, c'est une supposition.
Déjà qu'on s'est gouré tout à l'heure, enfin, on fait que se tromper de toute façon. Ne croyez pas une seule seconde ce qu'on dit. Hein,
non, surtout que quand j'ai dit ça.
D'ailleurs, t'as dit, c'est pas Kadic, mais après, t'as pas dit du coup, c'était qui? Parce que ça me dit quelque chose, mais je me rappelle plus non plus, Soma.
Non, c'est le meilleur des mondes. Et okay. Huxley, tout ça, je peux pas te donner la date de sortie, mais bon. Voilà. Mais on le savait tous, hein, c'est un peu honteux, mais bon, voilà, avec ce que vous voulez, on est fatigué.
C'est pas grave, voilà. Personne nous en voudra.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose autour de Papy?
Non, je pense qu'on est bien. Merci, Papy.
Alors, on va passer à Vic.
Très bien. À la dernière chronique.
Compte rendu réuni au prix Comex C09-2020 Perf Smart Fridge X3.
Dans la salle de conférence 312. Au 18e étage, palier ouest de la tour 7 bis du nouveau campus Walt & Smith. Au 56 boulevard de la Liberté, à Neuilly-sur-Seine, on trouve une grande table ovale en marbre de Calacatta, blanc, vénuré gris, 12 fauteuils de bureau Alain Richard, seconde édition de 1963, avec piétement chromé en étoile 4 branches, accoudoir en sky et contreplaqué de palissandre thermoformé. Un glassboard Office Jet Model 4 en verre trempé blanc avec fixation alu et système déposé à mémo aimanté. Un large écran interactif 4K Samsung Flip 2 de 65 pouces capable de diffuser depuis un PC en Miracast ou en screen mirroring, de se connecter en NFC, de permettre à 4 personnes d'annoter en simultané, de modifier, d'imprimer et d'envoyer par email les comptes rendus de réunion en quelques clics. Mais dans la salle 312, on trouve aussi une bouteille d'eau minérale Carolina Mountain Springs de 2 litres, 12 verres en plastique dur transparent posés sur un plateau au centre de la table, ainsi qu'un tableau au mur représentant les deux fondateurs de la Walt & Smith, Benjamin Walt et Peter Smith, souriant dans leur costume sur mesure, habités par le regard bienveillant de ceux qui finalement un jour constatent que si, l'argent participe en grande partie et à sa manière au bonheur, et notamment en permettant d'égrener des portraits à son effigie dans les plus grandes salles de réunion marketing des quatre coins de la planète. Il est précisément 7h59 ce matin du 16 septembre 2020, lorsque Zoé Zerator entre dans la salle de conférence 312. Zoé Zerator est directrice marketing opérationnelle France Walt & Smith. Elle porte le modèle Roma de chez Sonia Riquel, un tailleur minimaliste et contemporain acheté état presque neuf sur vestiairecollectif.com à 900€ au lieu de 1400. Zoé Zerator a le pas affirmé lorsqu'elle rejoint le fauteuil situé en tête de table. Zoé Zerator ne supporte pas le retard, et tout le monde le sait. Alors tout le monde est déjà assis autour de la table de la salle 312 au moment où elle entre à précisément 7h59. Dans une minute commencera la réunion de débrief sur la perf en PDM reçue dans l'étude Quanti Ipsos commandée suite au lancement du nouveau fleuron de la Walt & Smith, le Smart Fridge X3. Cette réunion est donc importante et tout le monde dans la salle est donc très concentré. Zoé Zerator jette un œil autour de la table. À côté d'elle, il y a Marco Malkoritz, DIRCOM Global Walt & Smith. En face, Sarah Sapporo, chef de projet ICRM Data. Puis Tony Tenapi, Head of Social Analysis. En bout de table, Imed Irani Dejan, chargé de com événementiel détaché par Sunshine Brothers, l'agence de pub historique de la Walt & Smith. Et enfin, entre Sarah Sapporo et Imed Irani Dejan, il y a ce stagiaire community manager dont elle a oublié le nom. Pas grave, la réunion peut commencer. Ce stagiaire, c'est Maël Malevich. Mais au service com de la Walt & Smith, personne ne connaît son nom de famille. Les équipes l'appellent simplement Maël, ou souvent le CM, voire le stagiaire, et pour pas mal, le stagios. C'est la première fois que Maël voit Zoé Zerator d'aussi près. Depuis que son stage a commencé il y a 5 mois, il passe ses journées dans un coin de l'open space, excentré, derrière les photocopieurs, aux côtés d'autres stagiaires issus de diverses succursales des services com, market et RH. Certains de ses collègues stagios, parce qu'eux-mêmes s'appellent également ainsi parfois, en sont à leur 5e ou 6e stage d'affilée rémunéré 350€ par mois, sans ticket resto et sans ticket cadeau à Noël. Entre tous et la plupart, passent leur journée à transférer des mails ou à poster sur les réseaux sociaux de la Walden Smith ce qu'un chargé de com d'une marque X ou Y leur somme de poster dans l'heure dans un mail annoté urgent, sans objet et sans merci. De son bureau, sous un certain angle précis, c'est-à-dire quand il abaisse un tout petit peu le buste et relève la tête à environ 30 degrés pour regarder pile entre l'imposante tour de son PC de 2004 et le photocopieur numéro 16, Maëlle peut entreapercevoir une partie de l'immense baie vitrée du bureau en mezzanine de Zoé Zerator. Alors quand il n'a pas de mail à transférer ou de post à publier sur Twitter ou Facebook, Maëlle observe la déesse marketing en personne en train de manœuvrer la barre du navire amiral du capitalisme avec un brio et un mystère qui le fascinent au plus haut point. Mais ce jour-là, le 16 septembre 2020, après 159 jours à la Walden Smith, Maëlle se retrouve enfin dans la même pièce que celle que tous les stagiaires de la boîte surnomment Kaiser Zoé, rapport à la combinaison de Zoé et de Kaiser Soze, le personnage culte du film Usual Suspect que Maëlle n'a pas vu mais qu'il connaît pourtant par cœur de réputation. Quand Zoé Zerator s'assoit ce matin-là dans le fauteuil Alain Richard du bout de la table, Maëlle ressent comme une sorte de jalousie pour le fauteuil. À cet instant, il peut encore sentir les effluves du parfum de luxe qu'elle a disséminé derrière elle en rejoignant son siège. Les sens de Maëlle sont en ébullition quand Marco Malkoritz prend la parole. Le dircom en polo Lacoste arrête de pianoter sur son MacBook Pro 15 pouces et lance.
Les analytics B2B de la prise de parole sur Q3 ne sont pas optimales. Le bench est à revoir entièrement. On est dans la méga merde pour le comex du vin.
Silence pesant, Maëlle sent de l'électricité dans la salle. Il n'est que 8h02 et le jeune homme n'a jamais senti une telle tension. Il ose un regard discret et furtif vers Zoé Zerator. Elle ne s'y hie pas. Aux yeux de Maëlle, à ce moment précis, elle est aussi fixe et puissante qu'une statue grecque. C'est un Michel-Ange. Un nouveau Michel-Ange. Le nouveau Michel-Ange. Elle reprend une gorgée de son espresso Capriccio. Maëlle remarque la subtile trace de rouge à lèvres qu'elle vient de déposer dans un cliché sensuel sur le bord de son gobelet en carton recyclé. Elle répond d'une voix calme.
Les KPI sont down. Quels sont les résultats du cross-device sur le market share?
Sarah Sapporo bafouille quelque chose d'inaudible en fouillant dans un tas de papiers devant elle pendant que Imed Iranidejan, le jeune cadre de Sunshine Brothers, hausse les sourcils et lance à la volée une formule qui sonne comme un ancien mantra sorti tout droit du Mercator et récité par cœur.
L'important, c'est pas la chute des KPI, c'est l'atterrissage du ROI. Croyez-moi, Madame Zerator, si on ne touche pas au pitch content du market, on sera bon sur le Q3.
Il sort avec son petit ton vaniteux. Nouveau silence pesant. Maëlle croit bien que Imed Iranidejan vient de défier l'autorité de Zoé Zerator. Il n'en est pas sûr, parce qu'il n'est pas sûr de comprendre ce qu'il se passe dans cette salle 312 à cet instant précis, mais si c'est bien le cas, et si le jeune publiciste a bien contrarié la puissante directrice marketing opérationnelle France Walton Smith, il devrait assister à une mise à mort péremptoire, brutale et sans concession. Zoé Zerator fusille Imed Iranidejan du regard, et d'un ton très calme, et d'un regard très noir, elle pointe du doigt l'écran interactif Samsung Flip 2 et lance une manœuvre en deux bandes. Elle commence par dire
« Creusons la granularité pour implémenter de la nouvelle opportunité. Sortez-moi les tests de perf sur les brand cues de Q2, now. »
Sarah Sapporo se lève d'un coup et marche d'un petit pas rapide jusqu'à l'écran sur lequel elle commence à faire glisser ses doigts rompus à cette technologie. Elle fait défiler les tableaux de stats XML, les taux d'engagement des leads, les résultats SEO et les pipelines de Rich Media. Les gestes de la jeune chef de projet ICRM Data sont précis. Son workflow est efficace, ses scrolls sont maîtrisés. Et la pince qu'elle forme avec son pouce et son index pour agrandir ou faire une rotation au schéma s'affichant sur l'écran est chirurgicale. Tout va vite, et Maëlle croit comprendre qu'elle parvient finalement à retrouver le ROI et les tests de perf demandés. En face de lui, il aperçoit Imed Iranidejan qui blêmit et tente d'articuler quelque chose dans sa barbe. Cela ressemble à...
Mais je comprends pas, l'event n'était pas censé... C'est top down, non? Je croyais que...
Zoé Zerator se lève et le coupe sèchement.
Et c'est pour ça qu'on verse 400 cadeaux nos parents à Sunshine Brothers?
Imed Iranedejan s'enfonce un peu plus dans son siège pendant que Zoé Zerator s'avance. Il est 8h04. Maëlle ne peut plus détacher son regard de la directrice marketing. Le rythme cardiaque du jeune stagiaire se synchronise avec les coups de ses talons qui frappent le sol de la salle 312 à intervalles réguliers. Et puis, la lumière. Une lumière chaude qui se met soudainement à irradier de Zoé Zerator. À chaque pas, un peu plus de lumière émane de son tailleur, Roma. Alors qu'elle continue d'abattre son courroux sur le prétentieux chargé de com, malheureux mortel d'os et de chair. Elle enchaîne ses sentences à coups de
coup par clic, d'optimisation off-page, de MPS et de call to action.
Le tonnerre frappe le jeune fougueux à de multiples reprises. Maëlle éclate d'un rire franc et se jette à genoux, en levant les mains vers celle qui lévite à présent au centre de la salle 312. Imed Iranedejan est maintenant en feu. Il se consume sans bruit, alors que des millions d'éclairs de lumière violette et verte sortent des doigts de Zoé Zerator, alors qu'elle tournoie lentement à 2 mètres du sol. Elle est transpercée de rayons cosmiques, de part en part. Son tailleur a disparu. Elle est nue. Elle n'est ni femme, ni homme. Elle est immortelle. Elle déclame des cantiques sacrés dans une langue propre aux dieux. Face à elle, Maël prie. Il répète ce qu'il croit comprendre. Il parle de guérilla Big Data et de Strat Bundle, et de perf local et de ciblage post-proof point, et de showcase smart fridge et d'engagement rate. Maël parle et parle. Il ne se comprend même plus. Maël ne s'arrête pas pour autant de parler. Il parle la langue des dieux. Il vomit les mots qui guideront le grand public. Il vomit les mots qui guideront les consommateurs, cœur de cible sur la voie de l'irréputation. Il vomit les mots qui lui viennent du dieu Zerator en personne. Maël est en transe. Une transe eucharistique absolue. Maël est complètement recroquevillé sur lui-même, les bras tendus en avant qu'il baisse et relève en hurlant. Il prie Walton Smith. Maël est un témoin. Maël est l'apôtre. Maël est l'apôtre Stagios. Il est le pain à forte valeur ajoutée. Il est le vin de la part de marché. Autour de lui, tout le monde brûle à présent. Et les tsunamis du B2B s'abattent sur la ville et sur tous les touchpoints de l'univers. Zoé Zerator est entrée en rich fusion et Maël rampe vers elle pour ne faire qu'un. Maël fond et Maël renaît. Maël est incentive. Maël et Maël. Maël et Maël Malevich. Maël et Zoé Zerator. Ils ne sont qu'un. Ils ne forment qu'un. Kaiser Zoé, déesse du marketing opérationnel France Walton Smith, déesse CSP++. Maël est to be confirmed. Maël et Walt. Maël et Smith. Maël est le stagiaire martyr Walton Smith sacrifié sur l'autel de la mercatique. Mort trop à zap. Il est 8h09. Apocalypse in progress. La réunion est à présent terminée.
Et ben voilà, encore une belle chronique.
Encore une sacrée chronique de Vic.
Alors, est-ce que tu travailles trop en ce moment? Est-ce que tu es en train de lire Le Roi Pâle, peut-être?
Non, je ne l'ai pas lu.
Ok, bon bah, trop bien. Est-ce que je me suis fait un... Je sais pas si je me suis fourvoyé, je suis parti dans autre chose. Tu fais référence à la glossolalie?
Non.
Très bien. Bon bah, salut. Je vous laisse continuer pour vous. Moi, c'est tout pour moi.
Bon bah alors, bisous.
Ouais. Non, mais le fait que c'est peut-être un hasard, mais bon, voilà, je te sais. Voilà. Tu sais, le fait de parler en langue, ce qu'on appelle parler en langue. Vous avez déjà entendu parler de ça?
Ouais. C'est genre tu te réveilles d'un coma et tout à coup tu parles espagnol ou iranien.
Non, parler en langue c'est un terme religieux, je crois, qui vient de je ne sais pas quel endroit. Il s'appelle parler en langue et en fait c'est ce qu'on appelle la glossolalie et on parle de langue des anges. En fait c'est arrivé, on note des moments historiques où des gens rentrent un peu en transe et commencent à parler en langue. En fait, c'est l'expression, c'est parler en langue. Et on dit que ça serait la langue de Dieu, la vraie langue, en fait, une sorte de langue originelle. C'est un mysticisme, hein, sinon je vous parle. Et j'ai cru que ça parlait de ça, en fait, et qu'en fait la langue des dieux, c'était en fait le bullshit marketing. Mais c'est pas ça du tout.
Non, pour moi, c'était plus l'histoire d'un burn-out. Hein. En fait, il pète un câble. Hein. Elle l'évite pas vraiment et le monde ne brûle pas et la ville ne se détruit pas. Hein. C'est juste que le mec, il est un peu timbré, il a un peu trop travaillé. Et puis l'autre, parlant sa langue bizarre, vu qu'il l'admire un peu, voilà. Disons que ça part un peu en cacahuète, mais non, il y avait pas là. C'était pas le vrai dieu.
D'accord, parce que c'est fou comme la. Comme mon interprétation colle, en fait. C'est incroyable. Ouais. Et très bien, en fait, c'est juste première proposition, tu travailles trop, c'est ça, ok. Très bien.
Non, je voulais écrire une chronique aussi obscure un peu que le thème, comme je vous le disais, quelque chose d'assez pleine de secrets pour le commun des mortels. Ou
cryptique.
Assez cryptique, ouais. Parce que les mathématiques, c'est un langage, on peut dire, un peu codé, qui est un peu difficile à comprendre. Et le marketing ou tous les trucs un peu de spécialité comme ça, ça peut l'être aussi.
Et moi, je me suis fait assez peur à comprendre une grande partie de ce que tu as raconté, et ça m'a fait très mal au cœur. Je me suis dit que justement, il fallait que j'arrête et que j'aille dans le Larzac élever des chèvres, très certainement.
Tu travailles dans le marketing?
Je travaille pas dans le marketing, je suis le marketing. Je suis Kaiser Zoé, ok?
Je suis la mercatique.
Laissez-moi tranquille.
J'ai adoré le terme mercatique, parce que autant les bullshit words, bon, on n'en peut plus, on s'en moque, on les utilise parfois, mais bon, peu importe. Le terme mercatique, qu'est-ce que ça fait mal?
C'est clair.
Franchement, ouais. Ça fout le café.
Back dans les années 80 du marketing, quoi. Mais superbe, c'est bien, j'aime beaucoup. Ouais, ouais. Encore une fois, c'est un magnifique travail sur les prénoms. Tu m'inspires de jour en jour, Vic. Je t'aime très fort.
Non, mais même, moi c'est pour ça que. Alors bon, je suis passé à côté de la chronique, hein, clairement, parce que j'ai vu autre chose. Mais il n'empêche que je trouvais ça formidable quand même. Mais c'est un magnifique travail, même sur la langue. Je trouve que, en fait, c'est pour ça que je pensais au roi Pâle, parce que le roi Pâle, en l'occurrence, moi je ne l'ai pas lu, mais j'ai cru comprendre ce que toi, Vic, qui m'en a déjà parlé, que c'était pas exactement ça, mais c'était un peu le quotidien d'un mec qui est assistant dans un bureau et qui fait une tâche c'est ça un peu
je crois ouais,
je crois que c'est ça aussi pour en avoir un peu entendu parler, donc si quelqu'un l'a lu dites-nous et du coup je me suis dit, donc je crois qu'il n'y a pas ça dans le bouquin, mais c'est vrai que je l'ai jamais lu, ça doit peut-être certainement exister, mais un bouquin entier en avec des termes comme ça, un truc hyper postmoderne et tout, c'est super super intéressant aussi. Avec en plus cette fin qui, enfin ça sert ton histoire, quoi. C'est ça qui est cool.
Et ben bah, en fait c'est marrant que tu dises ça parce que c'est pas le roi Pâle, mais pour le coup il y a une nouvelle de, c'est pareil, Foster Wallace qui m'a inspiré, qui s'appelle Mr Squishy, où c'est une réunion d'un panel consommateur en fait. Et alors il y a pas forcément il joue pas forcément avec le langage un peu voilà, mais il joue sur l'absurdité un petit peu des situations, ouais. Et des espèces de situations comme ça banales qui se déroulent chaque jour dans tous les bureaux. Alors là c'est le marketing. Lui, c'est les trucs de consommateur. Bon, c'est aussi une forme de marketing, mais ça peut se dérouler, je sais pas, chez les avocats, chez les banquiers, chez machin. Et on a développé aujourd'hui des codes en fait entre c'est des petits univers en fait qui sont clos dans le tertiaire. Tu parlais tout à l'heure du tertiaire, ouais. Mais et en fait finalement c'est ça qui est devenu le centre de la vie de plein de gens. Et pourtant c'est d'une banalité vraiment absolue. Ça se déroule chaque jour. Et je voulais en fait rapprocher un petit peu ça d'un espèce de truc cosmique / religieux. Alors que c'est des putains de bullshit jobs comme on dit, comme le terme qui est arrivé, enfin avec le bouquin de l'autre là. Mais c'est tout ça ne sert à rien. En fait, ouais. Et, tout ça est vraiment une construction de l'esprit et des, et du monde moderne, quoi. Et
d'ailleurs, Vic, t'as tout à fait raison avec ce langage qui est proche du langage religieux, parce que justement, il est fait pour donner du sens et de l'importance et un vrai life purpose, j'ai envie de dire, à ces gens qui ont des bullshit jobs, et pour ne pas qu'ils s'en rendent compte qu'ils ont des bullshit jobs.
Ils sont tous directeurs.
On leur donne ils sont tous directeurs. On leur donne une des vraies responsabilités et parce qu'ils parlent anglais et du coup ils ont l'impression d'être de vrais Americans, tu vois,
Head of les toilettes, head of photocopieuse.
Non mais head of stagiaire, head of stagios. Et juste dernière petite chose sur la musique. Je sais pas si vous avez fait attention à la musique, mais elle est super chouette. Et je voulais juste en parler parce qu'on ne parle pas souvent de la musique. Alors quand c'est des artistes célèbres et voilà. Enfin là, elle est un petit peu célèbre, mais c'est une compositrice qui s'appelle Lena Raine, R-A-I-N-E. Et donc c'est une compositrice de musique de jeux vidéo en fait. Et elle a travaillé sur plusieurs choses. Plusieurs jeux, dont Minecraft, Guild Wars 2, et le jeu dont j'ai tiré toutes ces musiques, qui est Céleste. Je sais pas si vous avez joué, mais en gros c'est
j'ai joué.
Voilà, bah c'est la BO de Céleste qui a été conseillée, qui m'a été conseillée par Antoine, qui est le seul guest qu'on a eu un jour sur Alien et les garçons. Pour les auditeurs qui sont vraiment les plus assidus, c'était notre Jean Moulin / Tom York. Et bref.
Ah oui, je pense que là tu parles aussi un truc que les gens. Même moi, je m'en rappelle pas.
Ouais, non, mais bon, bref. Et on lui avait demandé qui il était quand vous allez encore à l'époque les portraits chinois des Glingos. Il nous avait dit Jean Moulin ou Tom York. On avait dit putain, t'es un peu déprimant comme mec. Enfin bref, il m'avait conseillé de cette BO là de Céleste, enfin l'OST de Céleste. Et du coup, j'ai écrit la chronique avec cette musique. C'est ça aussi un peu qui m'a inspiré à faire ce final où ça monte et l'autre elle l'évite à 2 mètres du sol, ouais. Etc. Et bref, c'est une BO très chouette que vous pouvez aller écouter partout.
Moi, de tout ce que vous avez dit, j'ai retenu qu'un seul truc. C'est que Vic, il dit Minecraft.
On est d'accord, je voulais qu'on fasse une aparté sur ça aussi.
Il dit pas Minecraft, il dit Minecraft.
En tout cas, c'est ta dernière réplique et je pense toute ma chronique sont des lignes à rajouter à la liste des contres de papy. Voilà, c'est ce que je voulais.
Ouais, carrément, complètement.
Ouais, carrément.
Complètement. Mais en même temps, en effet, tu peux y trouver une certaine beauté, quoi. Enfin, c'est pour ça que, enfin, voilà, je vais redire un peu ce que je disais tout à l'heure, mais c'est que de tourner avec du langage marketing comme ça, des phrases, et d'en faire un truc un peu littéraire, tu peux y trouver une beauté, et je trouve que c'est intéressant. Si, je me dis que ça existe déjà, hein, si un auditeur qui lit beaucoup peut nous envoyer la ref, une ref, s'il connaît, ça serait cool, s'il vous plaît. Peut-être même un Bret Easton Ellis a pu faire ça, tu vois, sur la fin.
C'est possible, ouais.
Mmh. Ouais, un mec comme ça, je sais pas trop, bon bref. On lit pas assez, qu'est-ce que vous voulez. On croit que Soma c'est fait par Philippe Caddy, qu'est-ce que tu veux. Voilà. On n'a pas le temps.
Bon, peut-être qu'on va pas faire de club culture, on va pas recommander de choses, on est trop nuls.
J'ai adoré cette fin de débat, c'était super. On va se faire un petit club culture, on revient après la virgule, ok?
On revient après la virgule.
Allez.
Le masque et la pipe, le club culture d'Alien et les garçons, présenté par Alien et les garçons. Qui veut commencer? De quoi on se parle? De qu'est-ce qu'on recommande aux auditeurs?
On fait un Jifumi?
Pour savoir qui commence? À distance, ok, vas-y, on le fait à trois. Hein.
On fait comment?
je sais pas, on fait et on annonce quoi.
Donc on dit Shifumi, on annonce tous le mot qu'on dit.
D'accord.
Alors, Shifumi,
ciseaux. Ah, j'ai gagné, je commence.
Qui a dit ciseaux?
Bah c'est moi, c'est Thomas.
Ah bah t'as gagné, ouais.
Bah tu commences.
C'est formidable.
Ah parce que pour moi c'était celui qui perdait qui commençait, mais vas-y.
Ah bah comme vous voulez, moi je passe.
On aurait pu tous gagner et perdre à la fois vu qu'on est trois, ça aurait été beau.
Oui c'est vrai.
On aurait pas fait, club culture, ou alors ça aurait créé un trou noir, je sais pas.
Ouais, on serait désintégré.
On serait désintégré complètement directement. Moi je vais vous parler d'un jeu vidéo qui n'a pas besoin du tout d'être évoqué ici, parce que c'est un jeu vidéo qui a déjà été évoqué partout et qui a eu beaucoup de succès, mais je vais quand même en parler parce que j'ai un truc à dire dessus à mon tour, et je vais vous parler de Death Stranding. Ça vous parle?
Le fameux, t'en parles depuis des semaines déjà.
Ouais, parce que j'y joue là depuis quelques semaines. Donc c'est un jeu vidéo sorti sur PS4, PC, un jeu d'Hideo Kojima, qui est le créateur de Metal Gear Solid, de tous les Metal Gear Solid. Je vais expliquer rapidement le principe du jeu avant que j'en vienne à ce que je vous racontais sur ce jeu. Pour ceux qui ont déjà tout entendu parler de ce jeu, je vais essayer de dire quelque chose d'autre. Je vais faire mon possible, ok. Donc Death Stranding, ça se passe dans un futur proche. Il y a un événement mystérieux qui s'appelle donc Death Stranding, qui détruit le monde. C'est un jeu post-apo. Depuis le Death Stranding, le monde des vivants et le monde des morts en fait n'est plus séparé, dans le sens où les morts peuvent venir dans le monde des vivants, et ces morts là on les appelle des échoués, qui sont des sortes donc de fantômes ou d'âmes errantes qui sont meurtrières, qui tuent les gens, et qui apparaissent quand il pleut sur Terre. À savoir que quand il pleut aussi, la pluie fait vieillir prématurément tout ce qu'elle touche, être humain, matériel que tu transportes, tout ce qu'elle touche. Voilà. Donc les humains, ils sont un peu condamnés à vivre sous terre, dans de petites communautés isolées dans ce monde post-apo. Le joueur, lui, il joue un personnage qui s'appelle Sam Bridges, qui est littéralement un livreur en fait, qui va se déplacer. Il fait partie des rares qui se déplacent à la surface et qui vont braver les dangers pour relier les communautés, leur apporter des objets, etc., du matériel, et qui se balade avec un fœtus accroché sur le ventre pour l'aider à détecter les échoués, parce que les fœtus n'ont ni morts ni vivants, donc ça peut faire le lien entre le monde des morts et des vivants. C'est très particulier. Donc ça, c'est le pitch. Vic, tu connais, toi?
Je connais de nom, et j'ai regardé des trucs dessus. D'accord. Oui, mais j'ai jamais joué.
C'est pour savoir à qui je m'adresse, que je sais que Florent, je l'en ai déjà parlé un peu, pour pas dire bassiner même.
Beaucoup, beaucoup, ouais.
Voilà, donc pourquoi j'en parle alors que ce jeu est sorti déjà il y a peut-être 2 ans, je sais plus. Donc c'est, comme je disais, c'est un jeu qui a fait couler pas mal d'encre. Beaucoup de gens ont adoré, il y a beaucoup de gens qui ont détesté complètement aussi. Moi, je fais partie de la catégorie des gens qui ont adoré. Je l'ai pas fini, je suis en train de le terminer, je pense qu'il me reste une 20aine d'heures. Je fais partie des gens qui ont adoré, et pourtant, donc je précise tout de suite, parce que c'est aussi un peu toujours pareil avec les jeux vidéo, c'est une guerre d'église quoi. Moi je suis pas du tout Kojima sexuel, j'ai jamais joué à Metal Gear Solid, j'ai joué un petit peu voilà quand j'étais gamin, mais sans plus. Je suis pas du tout fan du mec, je connais pas bien quoi, et donc je suis vierge de préjugés. Je peux jauger, je peux mettre le doigt dedans et vous dire si c'est bien. Et moi j'ai bien aimé, pourquoi? Parce que en fait on parle souvent du jeu vidéo comme,
je vais vous
comme
le dire en 4 points.
Voilà, en 4 points. Non, mais en fait, je vais le dire tout de suite pourquoi, et je vais vous expliquer ensuite en 20aine de points. Non, en fait, on parle toujours du jeu vidéo comme un art, sauf que moi, je trouve que, enfin, on essaye. Même moi, je suis le premier à essayer de défendre ça parce que c'est un média comme un autre, etc. Sauf que le plus souvent, en vrai, on est plutôt dans le divertissement ou dans l'artisanat à la rigueur, mais pas, comment dire, dans l'art au sens artistique du terme profond. C'est finalement assez rare, à part dans pas mal de jeux indés. Rigueur. Sauf que moi, je trouve que Death Stranding, c'est pas un jeu indé, c'est pas non plus un triple A, mais c'est doit être un double A. C'est un jeu qui a quand même un gros budget, sans être énorme ici, mais c'est pas du tout, c'est pas Paper Please quoi. C'est un jeu pour moi qui arrive à avoir à entrer dans le domaine de l'art. Malgré le fait que c'est un jeu qui est, je dis pas qu'il est génial, c'est un jeu qui a plein de défauts et qui me déplaît aussi sur plein de points. C'est un jeu super japonais et les jeux japonais c'est toujours un peu compliqué. Moi je recommande aux gens d'y jouer. Il y a des gens qui peuvent détester ou pas, mais ou adorer. Mais c'est un jeu qui je trouve qui arrive à comme un bon livre, comme un bon film, à dérouler son propos d'une manière cohérente. Ce qui est pas vrai dans les autres jeux, on sent que c'est une équipe globale qui travaille et chacun met un peu ça. Il y a évidemment des mecs qui sont lead, mais même des jeux que j'adore comme les GTA ou des jeux que j'aime moins mais qui sont énormes comme les jeux d'Ubisoft, les Assassin's Creed et tout ça, on sent que c'est une des équipes complètes qui travaillent dessus. Là, quand tu joues à le jeu, et je pèse mes mots parce que moi j'ai joué à pas mal de jeux vidéo j'ai jamais eu ce sentiment-là, à part dans des jeux indés justement. Tu comprends que tout se déroule, tout est calé, tout est fait dans le gameplay, dans l'histoire, dans tout ça, tout est fait pour raconter une seule chose et c'est assez fou en fait. Il paraît que, alors je sais pas si vous connaissez un peu les jeux vidéo de Fumito Ueda, c'est le gars qui avait fait The Last Guardian et comment ça s'appelle, Shadow of the Colossus. Je sais pas si vous voyez.
De nom seulement, j'ai pas joué.
Pareil, jamais joué non plus. Apparemment, donc il y a des gens qui ont déjà dû jouer vont dire mais ça existe déjà évidemment, parce que oui, ce mec-là apparemment fait des jeux aussi un peu comme ça. Et donc pour revenir sur le jeu, Kojima, il nous parle dedans, il parle du lien entre les humains, du début à la fin. Il parle de l'entraide. Donc ça se ressent en effet dans le scénario, parce que donc on est chargé de relier d'unifier les communautés en fait, pour qu'elles puissent s'entraider, partager des infos. On les connecte un peu comme une sorte d'internet. Mais ça se ressent surtout, et c'est ça que je trouve ouf dans le gameplay du début à la fin. Donc il est super complexe, donc je vais pas commencer à expliquer comment ça marche. Il y a plein de petites choses qui sont hyper malignes et tout, mais il y a un point que je voudrais développer juste là, et après je me tairai. C'est le fait que ce soit un jeu solo, mais qu'en fait tu joues quand même en ligne avec des joueurs qui peuvent t'aider. C'est-à-dire que quand je vais construire une échelle quelque part sur le territoire, je vais aménager le territoire pour pouvoir m'aider dans mes livraisons, un autre joueur va pouvoir utiliser cette échelle-là et m'envoyer des likes pour me remercier. En fait, c'est un jeu où les joueurs s'entraident entre eux dans leur partie solo, et je trouve ça juste... J'avais déjà vécu ça dans Dark Souls, mais c'est brillant, je trouve ça super bien foutu. Ils ont amené le concept encore plus loin, et c'est particulièrement bien parce que c'est le propos du jeu en fait, de l'entraide et le fait du lien entre les gens.
Et juste petite question, du coup, les joueurs peuvent s'entraider entre eux, tu peux les croiser ou pas dans le jeu?
Non, justement tu les croises jamais, t'es dans un monde vraiment vide, déshumanisé. D'accord. Tu crois que tu entends des PNJ vite fait, et encore c'est très rare, tu vois plutôt des hologrammes. Okay. Et c'est ça qui est assez fou, c'est que t'as des traces partout, tu peux laisser des panneaux en tant que joueur pour donner des indications.
Donc il n'est pas question de se flinguer entre joueurs ou quoi que ce soit?
Non, pas du tout, okay. Et au contraire, et je me suis surpris dans le jeu à m'arrêter pour donner des likes. Les likes, tu peux les donner aux gens, mais c'est aussi l'expérience, donc tu les aides en faisant ça. À donner des likes à un mec qui a placé un pont au bon endroit, qui a placé un truc au bon endroit. Bon. Et à prendre du temps pour faire ça, et t'as vraiment une impression de... d'entraide, et c'est dans le monde de jeux vidéo et encore plus dans un jeu solo, c'est complètement fou quoi. Et tu te retrouves à finir des livraisons que d'autres joueurs n'ont pas pu finir, à ramener leur matériel que tu trouves du coup par terre aussi, tu les ramènes, ou toi tu finis pas ta livraison, tu la mets dans un point relais et quelqu'un d'autre va la finir à ta place. Mais, c'est complètement
ah,
fou.
Ah c'est dingue, c'est vraiment ouf.
Alors ça c'est super chouette. Par contre je redescends d'un niveau dans, je passe du côté artistique du jeu, ouais. Je reviens à quelque chose de beaucoup plus terre à terre. Par contre du coup c'est un jeu solo où tu peux profiter d'un aspect on va dire multijoueur avec cet ouais, exemple de l'échelle que tu nous as donné. Donc du coup quand tu reviens sur le terre à terre, ça veut quand même dire que c'est un jeu solo où t'es obligé de payer un abonnement online.
Ah non c'est, tu payes pas l'abonnement.
Bah ouais mais du ah ouais d'accord tu
t'en... non okay. Je paye pas l'abonnement moi.
Ok
ah, bah, t'as juste besoin d'une connexion internet.
Parce que sinon attention je t'ai prêt à gueuler hein.
non mais bien sûr je comprends et t'aurais raison okay. Alors qu'est-ce que par exemple dans Dark Souls enfin, en tout cas le remake il faut que tu payes pour pouvoir bénéficier justement des indications des joueurs qui sont sur le sol. Là tu payes pas, t'as pas besoin, et je trouve que c'est justement c'est tout le
c'est
t'as raison
bien,
il aurait trahi le message du jeu s'il fallait payer. Ah, bah, parce que c'est pas du tout le message du jeu, et c'est super cool je trouve pour ça. Et ça va un peu plus loin parce que je suis en train de faire un long tunnel, mais bon c'est même dans le choix des personnages, donc c'est des vrais acteurs qui jouent dedans. Et il y a par exemple Guillermo del Toro qui joue un rôle, et il faut savoir qu'il est genre BFF avec Kojima, ils sont super potes.
Ah, c'est ouf.
Et la BO du jeu, c'est un groupe islandais qui l'a découvert en étant en vacances en Islande dans un disquaire, c'est un gars qui lui a fait découvrir. En fait, même dans la création du jeu, c'est déjà du lien humain en fait. Du début à la fin, il arrive à te dérouler le truc, et j'ai jamais vu ça dans un jeu d'une telle ampleur.
Et c'est Norman Reedus le personnage principal, non ?
Tout à fait.
C'est quoi son lien alors, c'est son cousin,
je sais pas. Non mais j'imagine que c'est pas vrai pour tout, mais en fait il y a plein de petites anecdotes autour de ça qui fait que Kojima en fait je pense que ça c'est pas du tout fait pour le jeu, il s'est pas dit je vais mettre mon pote Guillermo del Toro dedans parce que c'est un jeu qui parle de ça. C'est juste que je pense qu'il est comme ça naturellement et qu'il voulait en parler dans son jeu quoi, et que naturellement du coup dans le jeu enfin je pense qu'il doit chérir plutôt les liens avec les autres, et du coup il s'est dit je vais faire un jeu qui parle de ça. C'est la première fois, il faut savoir que Kojima a pu faire ce qu'il voulait, parce que c'est la première fois qu'il s'est barré de son studio, c'est son premier jeu en fait.
Après tu dis que on a presque l'impression là que les gens qui nous écoutent pour la plupart connaissent, mais pour ceux qui connaissent pas, dans ta description on a quasi l'impression que c'est tu le compares pas mal avec les jeux indés par rapport à l'art etc, que c'est un jeu à petit budget. C'est quand même un jeu, il a un énorme budget le jeu hein, je crois.
C'est ce que j'ai dit dès le début justement, c'est la première fois que je ressens ça sur un double A. C'est pas un triple A, c'est pas du tout Assassin's Creed, mais c'est pas du tout non plus un jeu indé
en termes de budget. Je crois que ils sont quand même balèzes, mais enfin bon c'est pas ça l'important.
C'est pas un triple A, triple A c'est, oui bien sûr, mais c'est pour ça que j'en parle d'ailleurs, parce que moi il y a plein de jeux indés qui m'ont déjà fait ressentir ça, ou même des jeux un peu plus gros qui sont pas forcément des indés faits par un seul mec hein. Mais là on se parle quand même d'une grosse équipe, d'une assez grosse équipe. C'est un jeu en 3D, monde ouvert, où tu te balades, enfin voilà, et on sent qu'il y a des moyens, et c'est ça qui est fou justement. C'est que normalement dans ce genre de jeu c'est vraiment du divertissement, et j'aime ça, il y a pas de problème hein. Mais là tu sens qu'il y a une dimension artistique pour de vrai qui est présente, et pas juste
En tout cas moi je trouve que t'as très bien réussi à vendre un jeu vidéo qui au final est juste un jeu vidéo UPS au final, de livraison de
Ah oui, mais c'est ça qui est fou aussi, c'est la livraison. Non mais il a raison, et c'est en ça aussi que Kojima est fort. C'est que normalement dans le monde du jeu vidéo on se moque des quêtes FedEx, de tous ces jeux où tu dois juste aller d'un point A à d'un point B, et là c'est précisément tout l'objet du jeu, mais il le fait super bien. Et après il y a à nouveau, je leur dis, il y a plein de défauts hein, vraiment il y a plein de trucs qui me saoulent un peu, mais néanmoins je m'en souviendrai pendant longtemps.
Très bien.
Voilà.
Bravo.
Est-ce que quelqu'un veut parler d'autre chose?
Florian, tu veux aller ou j'y vais?
Non, je peux prendre.
Vous pouvez faire un Shifumi si vous voulez. Hein.
Non, ça va aller. Je vais prendre la suite et je vais vous raconter. Je vais pas vous raconter. Je vais surtout essayer de vous vendre un livre qui s'appelle Cité-Ville. Je ne sais pas si vous connaissez.
Non. Cité-Ville, non.
Alors c'est une BD en fait.
Interville.
Non. Cité-Ville, c'est une BD en fait qui est écrite et illustrée par Jérôme Dubois, qui a un nom assez commun pour un livre qui l'est pour le coup vachement moins. Et en fait, je vais vous lire son autobiographie parce que c'est rien qu'avec ça qui m'a donné envie de lire cette BD.
Ouais.
Jérôme Dubois s'éveille à la vie en 1989 à Rueil-Malmaison. Certains, découragés par un tel début, en seraient restés là. Lui persévère et grandit obstinément entre la place de l'église et le bois de Saint-Curcufa. J'ai trouvé ça, rien que ça, je trouve ça génial.
Déjà, ça t'a rappelé ton enfance à Pelloy-les-Vignes.
J'ai pas grandi à Pelloy-les-Vignes, il faut que t'arrêtes avec ça.
Arrête de mentir.
Et en fait, Cité-Ville, c'est une ville qu'il a créée lui-même, c'est une ville un peu dystopique, qui exacerbe en fait notre pseudo-modernité, justement un petit peu comme t'as fait dans ta chronique, Vic,
ouais,
à son paroxysme, pour en montrer du coup toutes les dérives, et à travers différents lieux emblématiques de notre société actuelle, mais aussi du coup dans sa société, et qui sont dépeints avec beaucoup d'humour noir, c'est très acide. Et par exemple, il y a le pôle enfant. Le pôle enfant, comme le pôle emploi, sauf que là, c'est pour les enfants où les progénitures vont quand elles se retrouvent sans parents. Parce que les parents ont décidé tout bonnement de les lâcher sans réelle raison, quoi. Il y a aussi, par exemple, la maison de retrait. C'est l'endroit où les vieux vont vers la fin de la vie. Où du coup on y retrouve un petit peu tout ce qu'il y a dans une maison de retraite, mais aussi un distributeur de billets dans chaque chambre pour que les vieux puissent retirer de l'argent et le donner au personnel encadrant, et afin qu'ils continuent aussi à participer du coup à l'économie.
Sinon on les tue. C'est un peu politique.
C'est
un peu
extrêmement politique.
C'est en gros il parle du libéralisme exacerbé, quoi. Ça serait le libéralisme encore plus, quoi. C'est,
ouais,
ça...
mais il y a même pas que ça, parce que du coup, effectivement t'as même un des chapitres, parce que du coup c'est divisé en 9 chapitres il me semble, qui se passe dans un supermarché, mais c'est pas juste politique, etc. C'est aussi beaucoup sur la technologie, sur nos relations humaines, mais enfin bref, du coup c'est très humour noir, c'est très drôle, t'as presque pas envie de rire, mais c'est très drôle.
Est-ce que t'as une histoire qui dure du début à la fin, ou chaque chapitre c'est des personnages différents?
Pas du tout. Chaque chapitre c'est des histoires différentes, c'est des personnages, d'accord, différents. C'est plus séparé en lieux et en situations, entre guillemets, quoi. Je pense qu'à la base, je me suis pas assez renseigné, mais je pense qu'à la base d'ailleurs c'était chaque histoire était distribuée à part dans un magazine ou ce genre de choses.
Ah oui,
on dirait vraiment ça, quoi.
D'accord. Ben, c'est possible.
Mais enfin bref, ouais, c'est très bien écrit, c'est très bien illustré, et en plus de ça, ce qui est ouf, que j'ai découvert seulement après, mais en fait le mec est assez dingue pour avoir sorti un autre bouquin qui lui s'appelle Cité Ruine, qui est en fait la version post-apocalyptique de Cité Ville. Et quand je dis que c'est dingue, c'est parce qu'en fait Cité Ruine, c'est vraiment le miroir de Cité Ville, à la case près, à la page près.
Ah, c'est drôle.
Et en fait chaque case se fait du coup l'écho de Cité Ville, comme si c'était une sorte d'univers parallèle.
C'est trop bien.
Et du coup on voit comment tout ça est tombé en ruine, et forcément Cité Ruine. Et je trouve ça non seulement extrêmement malin, mais ouais, c'est très intéressant. Je l'ai pas encore acheté le deuxième, mais ça ne saurait tarder.
Le principe est vraiment cool de faire case par case la même chose, quoi.
Ouais, je trouve ça vraiment très bien. Et les styles illustratifs est sublime, quoi. C'est pas beau, comme on pourrait dire. Tous les personnages sont justement exceptionnellement laids, mais pour montrer justement aussi tout le côté moche de la vie, de ces aspects, ouais, de la vie, quoi.
Ça dénonce,
ça balance. Voilà, c'est Cité Ville, ouais, c'est par Jérôme.
Je suis en train de regarder les images, c'est plutôt, ouais, comme tu dis, c'est moche mais c'est beau.
Oui, ouais, c'est moche mais c'est beau, forcément.
Exactement, j'étais sur les images là, c'est trop cool de mettre les deux couvertures à côté. Sur la couverture de Cité Ville, t'as la ville dans le fond et t'as des personnages devant. Et effectivement, Cité Ruine, t'as plus les personnages, t'as plus que la ville derrière avec le vieux panneau de signalisation et tout. Enfin, ça donne vachement envie en tout cas.
Ouais, ça donne vachement envie.
Ça a l'air très cool.
Et c'est aux éditions Cornelius, en tout cas pour Cité Ville. Je crois que Cité Ruine n'est pas dans la même maison d'édition. Il faudrait s'en saigner. Mais ce sera pour une autre recommandation,
l'édition,
je pense.
Non, mais l'édition Matière.
Pour, voilà, le Cité Ruine ?
Tout à fait.
Donc voilà, Cité Ville et Cité Ruine par Jérôme Dubois.
Bravo Jérôme.
Très bien.
Merci Florian, ça a l'air très cool en effet.
Eh ben, c'est très bien.
Sur l'échelle de l'art et du divertissement, tu le places où ?
Franchement, je le place pile poil au milieu, parce que c'est quand même c'est très drôle, c'est très acide, et j'aime beaucoup tous ces romans graphiques, tous ces objets qui sont très acides, mais c'est à la fois aussi vachement politique et vachement plein de sens, donc c'est cool, quoi. Après ça va pas non plus renouveler le genre, ça, je veux dire, j'ai pas découvert de nouveaux trucs en le lisant, mais c'est très bien raconté, c'est très bien écrit, et c'est
Et puis c'est un jeune auteur français, donc c'est bien de soutenir.
Exactement.
Et Cocorico. Alors Kideo Kojima, pas Cocorico.
Non, pas du tout Cocorico.
Vic.
J'ai failli être très raciste.
T'as failli faire un truc. Ah ok, non, t'as bien fait. Ouais. T'as bien fait. On veut pas de problème. Déjà qu'on va en avoir plein avec les Lyonnais. Vic, tu veux.
Eh ben moi,
ma
reco va bien boucler vos deux recos, parce que du coup, sur l'échelle de l'art et du divertissement, elle va pas se mettre quelque part sur l'échelle, mais elle va vous permettre à vous et à tous les auditeurs de pouvoir se mettre où ils veulent. Pourquoi ? Parce que ma reco, c'est Renpi. Vous connaissez Renpi ?
Non, pas du tout.
Renpi ?
Ouais.
Non, mais ça me dit, pourquoi ça me dit quelque chose ?
REN apostrophe PY. Non, ça vous dit rien?
Non. Non, du coup, non.
Eh ben alors maintenant, ok, petit indice, Renpi, c'est un mot valise. Donc, c'est un mot qui comporte le mot japonais Ren-ai, en français l'amour, et l'abréviation de Python, le langage de programmation utilisé donc par Renpi. Alors, est-ce que ça vous informe un peu plus de ce que c'est, langage de programmation et amour en japonais?
C'est l'amour informatique?
C'est un jeu vidéo dans lequel tu dois...
C'est pas un jeu vidéo dans lequel tu dois faire quelque chose, parce que sinon je pourrais le placer sur l'échelle. Je pourrais le placer sur l'échelle de l'arrêt du divertissement. Non, c'est un moteur de visual novels en fait, qui est un logiciel libre. Donc il est sous licence, une licence qui s'appelle MIT, mais qui est une licence libre. Donc tout le monde peut l'utiliser. Il s'utilise même d'ailleurs en ligne, ou on peut télécharger le logiciel facilement sur le site. Et en fait, ça permet de créer son propre visual novel.
C'est quoi un visual novel? Si tu parles des jeux dont vous êtes le héros, version jeu vidéo.
Visual novel.
Le visual novel, c'est le jeu dont vous êtes le héros en gros, mais tu sais avec en l'occurrence Renpi étant japonais, du coup c'est à la japonaise, tu sais, avec t'es dans un lieu puis t'as un personnage qui apparaît, le personnage te parle, c'est souvent des filles très manga.
Ah, mais je vois de quoi tu parles, et en fait c'est même il y a toute une catégorie de jeux vidéo qui se base sur ça.
Des jeux de drague.
Ouais,
c'est
comme les jeux de drague
c'est pour ça que ils utilisent le mot japonais amour, parce que souvent c'est effectivement des jeux où t'es dans un collège et il faut sortir avec tel mec ou tel mec. Après, c'est pas toujours de la drague. Hein. Des fois, ça peut être, ça peut être de n'importe quoi en fait. Mais c'est vrai que pour les Japonais, qui sont l'inventeur de cette forme de jeu vidéo, c'est effectivement, ça tourne souvent autour de la drague et de l'amour, quoi.
Et des tentacules.
Mais en gros,
Thomas, arrête un peu.
C'est Renpi, donc c'est ça, on peut le télécharger. J'ai entendu, pour redonner à César ce qui lui appartient, je l'ai entendu sur le podcast de Fibre Tigre, enfin c'est pas de Fibre Tigre, mais c'est de qualité, le podcast Compétences, et c'est Fibre Tigre qui anime les premiers, en fait, où il parle de game design, et dedans il dit, si vous avez vraiment envie de vous lancer là-dedans, vous avez aucune excuse, parce qu'il suffit de regarder une vidéo, un tuto sur YouTube qui dure environ un quart d'heure, et vous savez en gros utiliser Renpi. Ou Twine, enfin il y a d'autres logiciels. Et en fait, effectivement, tu regardes un tuto, c'est ce que j'ai fait, plus par curiosité. J'ai regardé quelques tutos de Renpi sur YouTube, et en fait, c'est ultra simple. Le langage, c'est inspiré du Python, mais c'est ultra basique en fait. Enfin, c'est vraiment, c'est du code, mais vraiment c'est ultra simple. Et après, en fait, ça te permet de créer une histoire dont vous êtes le héros. Tu peux mettre des images, tu peux ne pas en mettre, il y a plusieurs solutions qui font. Le Renpi, ça te gère tout plein de trucs de manière très simple. Ça va te gérer la difficulté technique, ça va te gérer les sauvegardes, ça va te gérer les préférences, les fonds, les personnages, etc., etc. Et en fait, en rentrant, c'est quasi un overblock, quoi. Tu remplis des cases et à la fin, t'as un joli site. Bah là, tu remplis des trucs. Et à la fin, t'as un joli jeu.
Question juste, c'est vraiment que le moteur comme ça, ou c'est un peu plus un logiciel, et genre ça te propose aussi des images ou des fonds qui existent déjà?
Non, c'est le moteur.
C'est vraiment que le moteur, ouais, c'est un vrai. Putain, tu recommandes un moteur de jeu vidéo.
Je recommande un moteur de jeu vidéo gratuit, exactement. Et parce que du coup, j'ai commencé à utiliser et à fabriquer une petite histoire. Donc peut-être que bientôt, vous allez pouvoir jouer à cette histoire qui n'a pas, pour l'instant, pas de titre. Mais,
ça va être un jeu de drague.
Non, c'est pas un jeu de dague. Je peux vous donner le pitch du jeu, parce que pour le coup, c'est pas bien avancé, mais c'est pas mal quand même. En gros, vous êtes un alien et vous vous écrasez sur la Lune. Et en s'écrasant sur la Lune, alors que on sait pas trop ce que vous faisiez, parce qu'en fait, en s'écrasant sur la Lune, vous êtes devenu un alien amnésique. Et tout le jeu va être de retrouver qu'est-ce que vous foutez là et pourquoi vous êtes crashé sur la Lune. Et en fait, vous allez pouvoir contacter la Terre. Et en contactant la Terre, rencontrer différents personnages, d'où le visual novel, rencontrer différents personnages et personnalités, on va dire, terriennes, et dans le dialogue avec ces différentes personnalités terriennes, essayer de retrouver vos souvenirs pour retrouver ce que vous foutez là, en gros.
C'est rigolo.
Ouais, et donc on verra où celui-là se place sur l'échelle du divertissement ou de l'art.
Ou de l'art.
Ouais, à mon avis, ça sera dans le négatif. J'espère du bon côté. Mais en tout cas, allez voir si ça vous intéresse. C'est vraiment super simple. Il y a Renpi, il y en a d'autres qui existent. Il y en a un autre qui s'appelle Twine, qui doit être peut-être européen celui-là, qui est vraiment plus livre dont vous êtes le héros, c'est que textuel, etc. Enfin, tu peux mettre des images aussi, mais Et c'est gratuit, c'est vachement rigolo à apprendre.
C'est pas cher.
Et c'est très sympa. Voilà.
C'est super. Moi, j'ai une première question, enfin, ou peut-être même une dernière. Mais du coup, toi, je m'intéresse plutôt à ce que tu es en train de faire, toi. Mm-hmm. Du coup, tu mets tes dessins, tu dessines? Tu fais comment?
Alors, non, pour l'instant, je veux que ça puisse n'être que textuel.
D'accord.
Et éventuellement, si après il y a des illustrations où il faudra des choses, bon, bah ça, on verra ça dans un second temps.
D'accord, mais pour l'instant, tu fais que du texte. Ça.
Exactement.
Ce mec malin, quand même, qui recommande son propre truc dans une recommandation, les Nagas,
c'est clair.
Moi, j'ai parlé d'un jeu que tout le monde connaissait juste pour pouvoir donner mon avis. Donc, bon. Là, clairement.
Ça sert à ça, les recommandations.
En termes d'ego trip, on est loin. Il y a que toi, Florian, qui dit un peu le truc, qui prend des jeunes auteurs qu'on connaît pas et tout. Franchement,
ouais, c'est clair.
Bravo, Florian. On va te laisser le podcast, on va te filer les clés. Tu gères ton truc tout seul, tu fais ça bien.
Y a pas de souci. Je pense que je risque de détruire la Terre plusieurs fois et de vous recommander des BD et des jeux vidéo.
Florian, quoi. La Terre, on a dit non. On a fait un pacte.
Non.
Alors.
D'accord.
Bon, voilà. Merci à tous.
Ouais. Et ben bisous.
Fin du podcast.
On va se mettre une petite musique et on va se dire que c'est la fin de l'épisode 43.
Moi, je veux la musique de ta chronique, Thomas.
Et ben là voilà. Qu'est-ce qu'on se dit, Florian? Qu'est-ce que tu dis aux auditeurs?
Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit allez sur Facebook, allez sur Twitter, surtout dans les prochains jours, parce que du coup on va lancer le concours pour gagner le fameux bouquin à tirage extrêmement limité de 2 exemplaires, Alien et les garçons. Donc on se dit ça, parce que vous allez devoir liker très certainement, vous allez devoir partager, retweeter ou genre de choses, on sait pas encore exactement, mais un truc
on
bien.
On a fixé des KPI.
Exactement, on a utilisé la mercatique à fond. Ouais. Et pour ce jeu concours, donc vous allez devoir faire ce genre de choses. Et sinon, n'hésitez pas toujours à nous laisser des commentaires sur iTunes, par mail, où vous voulez, pour nous laisser des thèmes. Et surtout, partagez la bonne nouvelle, partagez le podcast, partagez tout ça à votre entourage, à vos amis.
C'est exactement ce qu'il faut faire. Vraiment, t'as tout compris. Vic, qu'est-ce qu'il faut faire?
Partagez, likez et recommandez et aimez-vous.
Je pensais que t'allais dire autre chose. Mais aimez-vous, c'est bien, c'est ça qu'on veut, voilà. Voilà.
À chaque fois qu'on dit partager, liker, recommander, je pense au poulet boucané. Les auditeurs les plus fidèles le reconnaîtront. Bisous.